Émission en jase sur les ondes de Boulevard 101, ton résumé d'actualité. On va traiter de tous les gros dossiers ce midi. Évidemment, on va revenir sur ces accusations contre les policiers du SPVM. Enquête à l'heure actuelle, deux policiers suspendus pour des gestes racistes posés envers la communauté dans Montréal-Nord. Des gestes qui n'ont pas sa place, on va en parler évidemment. Par la suite, on va parler de cette chicane. Hey, on est reparti dans nos chicanes bleues et rouges. Wouhou! Paul Saint-Pierre, Plamondon et Charles Milliard. Là, on va chicaner à coup de poursuite. On va jaser de ça avec Antonine Iacarini, bien évidemment. Vicky Powell, avocate et criminaliste, va également nous parler un peu plus tard dans l'émission de ce qui se passe à Montréal-Nord. Luc Laliberté va nous parler de cette entente entre l'Iran et les États-Unis qui sera signée vendredi, de ce UFC sur les terres de la Maison-Blanche et du G7 cette semaine. Alex Laramé va être là parce que c'était une fin de semaine faste dans le sport. Les Hurricanes ont la Coupe Stanley. Les Knicks ont le trophée de l'NBA pour la première fois en 53 ans. Coupe du monde, on a fait notre premier point, le Canada à vie. Puis Lewis Hamilton, à 41 ans, a décidé de gagner un autre Grand Prix. Aïe aïe, pif, paf, pouf, padam.
Là, c'est le sevrage, graduellement,
oui,
avec la Coupe du monde.
Exactement. Moi, hein? Là, je l'ai dit, je suis vraiment... Je suis devenu fan de la Coupe du monde. Je l'avais écouté il y a de cela 4 ans. Mon Edouard m'a rappelé qu'on avait écouté la finale mettant aux prises l'Argentine avec la victoire de Lionel Messi un matin en déjeunant de fin de semaine. Il m'a rappelé ça samedi. Ah. J'ai dit, c'est vrai, je me souviens du match. Messi avait marqué, ça avait vraiment été bon. Et là, je suis tombé dans la Coupe du monde. Premièrement, vendredi, moi, la nulle de 1 du Canada. Écoute, j'ai crié ma vie dans le salon chez nous comme si ça en dépendait. Antonine, je m'excuse, j'ai remis mon drapeau du Canada dans les prochaines semaines.
Bon, c'est correct.
Tu le sais, quand il y a une compétition sportive...
Oui, je le sais.
Je redeviens patriote. Donc, ma nation, mon Connor McDavid qui était dans les estrades...
Ta nation?
J'ai
oh,
mis
mon Dieu.
Ça. Ouais, mais là, c'est...
Pour Jeff, ton pays, mettons, c'est correct. Là,
jusqu'à l'élimination. Non, bon, OK, mon pays, ça peut te faire
plaisir. Ouais, c'est mieux. C'est mieux.
Mon
tu sais,
pays...
tu sais, les mots ont une importance,
oui,
pour
c'est
moi.
Ça.
Alors.
Mon pays, mon Connor McDavid dans les estrades, mon acteur Ryan Reynolds, tu sais, c'est tous les miens. Là.
Ton Tim Horton.
Mon Tim Horton. Hey, non, je
mon Tim, ma nation, mon choix.
Ah, ouais. Je pense que j'ai bu du vin canadien, d'ailleurs, vendredi soir.
Ah, oh, ouais.
Un vin blanc.
De où?
Oh, ben, je pense que ça venait du Québec. Là, souvent, j'ai le vin blanc.
Ouais, vin blanc, c'est correct.
Ouais, j'ai le vin blanc de Sainte-Pétronille.
Oui,
bon. Oui,
ah,
oui.
Très bon produit,
bon,
par exemple.
Tellement une belle place.
Oui.
Bon,
oui.
Bref. Fait que là, je suis retombé là-dedans. Là, à 9h, pendant que j'écoutais le baseball de May Jays, parce que je suis retombé patriote canadien, et le football de mes Alouettes. Ça, c'est correct, c'est à Montréal,
oui,
c'est de Québec.
Ça, c'est correct.
Là, j'ai tourné ça aussi à la Coupe du monde à 9h parce que c'était le Paraguay contre les États-Unis. J'ai vu Katy Perry chanter, donc je me suis dit, c'est ça, Justin est là. Justin était là. Justin était pas à la game du Canada, il était à la game des Américains. Bon, on clôt le débat là. Il a dit, c'est mes responsabilités d'amoureux. Oui, ouais, c'est ça. Ton pays. Reste aux États-Unis, Trudeau. Et là... C'est fou comment je suis embarqué. Parce que samedi, je me suis retrouvé au Blackstone avant la NSPW Golden Opportunity, qui était un show extraordinaire. La WWE n'aurait pas pu donner un meilleur show que Golden Opportunity samedi. Pour 25$, c'est un vol. Moi et mes enfants, on a volé Steve Boutette et la NSPW. Ça valait 100$, ce show-là. C'était malade comme show. On se retrouve au Blackstone, et là, c'est en préparation Maroc-Brésil. Mais il y a plein de Marocains au bord du Blackstone.
Ben oui.
Hey, là, quand le Maroc a scoré, là, pas mêlant, je fêtais avec eux autres.
Mais ça revient exactement à la discussion qu'on avait la semaine passée. La meilleure façon de vivre la Coupe du monde, si vous n'êtes pas fan de soccer, c'est de faire ça. Aller dans les bars
oh, oui,
où on diffuse la Coupe du monde, aller vous intégrer... avec les gens qui sont vraiment fans. Tu sais, on avait une vidéo la semaine passée, justement, quand il y a eu le match Canada-Bosnie. Puis, tu sais,
oui,
on estime à 30 000 personnes de la Bosnie qui se sont déplacées quand même pour aller voir le match. T'sais, c'est pas rien comment...
Non.
C'est ça qu'il y a de beau dans le sport, c'est que t'aimes ou que t'aimes pas, il y aura toujours un volet rassembleur
à ça. J'étais tellement pour le Maroc que là, le Brésil a scoré, j'avais le cœur fendu en mille, parce que j'étais avec mes Marocains.
OK, ouais, je comprends.
Tu comprends? Mm-hmm. Et là, je me suis retrouvé à Golden Opportunity, mais le match n'était pas fini, il y avait une deuxième demi. Fait que là, à checker sur mon sel, qu'est-ce qui se passe avec mon Maroc? Il y en a eu un contre le Brésil, une crise de grosse nulle. Fait qu'on se reporte à hier soir, où on est en train d'écouter la finale de la Coupe Stanley, moi et Moïdou dans le divan. Ben, chill out. Moi, j'ai une petite coupe de vin dans les mains. Puis la première période finie. Tourne ça. Côte d'Ivoire, Équateur. Bon, Edou me regarde. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, d'habitude, on écoute l'entraque, les commentaires, tu te le quittes, je pratique mon anglais avec ça. Je dis, hey, tu comprends pas, man. Côte d'Ivoire, Équateur. Il dit, Côte d'Ivoire, Équateur. Ben, oui. J'ai dit, la Côte d'Ivoire n'a pas gagné de match en Coupe du Monde depuis septembre 2014. Et d'où on va peut-être assister à un grand moment. Je dis ça, paf, Côte d'Ivoire marque des minutes supplémentaires, l'emporte 1-0. J'étais dans le salon chez nous, j'étais fier pour ma Côte d'Ivoire. Tu comprends?
C'est incroyable. Comment... OK, finalement, c'est pas ta nation. T'es un citoyen du monde.
Oui, c'est un citoyen du monde. Oui.
Exactement. Jeff, t'es un globe trotteur dans ton salon.
Ou ben,
c'est ça qu'on comprend.
La dernière personne que Jeff a rencontrée... Selon son pays d'origine, c'est ça.
C'est ça. Devient,
oui.
C'est ça, sa nation officiellement. Mais d'où est-ce que tu avais ça, cette information-là, sur l'Équateur?
Équateur-Côte d'Ivoire?
Oui.
Ben, je suis allé faire mes recherches.
OK, fait que tu avais lu dans la journée,
ben,
tu avais eu cette information-là,
ben,
tu as fait cette stats-là.
Ben oui, je lis les pre-games, là, j'ai dit, hein, Côte d'Ivoire, faut que je check ça à soir.
Après ça, il croise un Équatorien puis il prend pour l'Équateur. C'est extraordinaire.
Ah ouais, c'est sûr. Fait que là, c'est l'Uruguay contre l'Arabie Saoudite que
oh,
je peux écouter à soir.
Prends pour qui, là?
Quand je reviens, ben, je pense que je vais prendre pour l'Uruguay. Arabie Saoudite, quand même, un peu de misère. Là. C'est des dictateurs. Uruguay, par exemple, faut que je m'informe un peu. Là.
Okay, je
vais t'avouer que
l'Uruguay,
je le connais pas trop, là, présentement,
ben,
comme pays. Aide-moi, c'est quoi l'Uruguay?
L'Uruguay est un pays de l'Amérique du Sud, très bon en soccer, premièrement, à ma connaissance, qui sont très faibles. Mais j'ai pas l'impression que c'est une dictature, effectivement, mais bon. à valider. Tu sais, des fois, on perd un peu le fil là, de ce qui se passe en Uruguay.
Je vais prendre pour mon Uruguay. Fait que tout ça pour faire sûrement un parallèle très boiteux, mais je vais le faire quand même. Faut être ouvert aux communautés, les amis.
Ben oui,
faut
tout
être
à
ouvert
fait.
Au monde.
Ça c'est le bon point.
Faut pas être comme les policiers des ESPVM.
Mais là, 971-1021, si il y a des gens de l'Uruguay, si on a des Uruguayens ou Uruguayennes à l'écoute, textez-nous, s'il vous plaît.
Vantez-moi votre pays.
Oui,
parce qu'à soir...
Puis où vous allez écouter le match, parce que Jeff va sûrement aller vous rejoindre.
Parce qu'à soir, moi, là je suis...
Un cœur à prendre.
Oui, je me sens comme quelqu'un qui vient de l'Uruguay.
Bon, et s'il y a des Saoudiens qui nous écoutent, vous pouvez envoyer aussi vos arguments par texto pour que Jeff prenne pour vous.
Parce que là, tu sais, c'est la Coupe du monde. Je suis embarqué dedans à 100%. Ma blonde qui pensait qu'avec la Ligue nationale qui était finie puis la NBA qu'elle aurait à paix, oublie ça, chérie, t'auras pas à paix. Je suis dans la Coupe du monde. Hey, jeudi 18h, le Canada qui a son deuxième match contre le Qatar. Le Qatar, en passant, qui a égalé la Suisse. Ça, on ne s'attendait pas à ça du tout dans la dernière minute. Fait que là, ça fait en sorte que les quatre équipes du pool ont chacun un match nul. Le pool est ouvert pour le Canada. Le chemin est en train de se tracer pour un parcours historique.
Mais ça reste que c'est ça. Il y a ça qui est fou avec le soccer. Tu sais, pendant le hockey, pendant les matchs du Canadien, tu sais, oui, avec les chums, puis avec tu sais, même Gab puis Mathieu, l'autre bord du côté de week-end, on s'écrivait un peu. Mais tu sais, plus des textos genre « Hey, c'est malade, gros match, quel game de fou ». Tu sais, des petites phrases quand même, des affaires rapides là, dans le...
Général.
Général. On a reçu à la fin de la semaine dernière Andy Cerqueira, qui est un grand, grand fan de soccer, qui est venu nous expliquer un peu la Coupe du monde, le Canada, pourquoi on a des chances, puis qui nous a expliqué aussi un peu que c'était en train de changer tranquillement là, le parcours pour partir de jouer au soccer à partir de l'âge de 3-4 ans et se rendre jusqu'à l'équipe nationale, qu'on est en train au Canada de tracer une trail qui va être la même pour tout le monde et pas plein de chemins différents. Bref, c'était super intéressant. Et là, finalement, quand il y a eu cette nulle-là, écoute, les messages textes qu'il m'envoyait, c'était des chapitres de romans. Comment c'était? Tu comprends pas, t'as pas idée. Tout est ouvert, tout est nouveau. C'est comme si on partait le tournoi à neuf.
Exactement.
C'est un grand reset, c'est exceptionnel. C'est pas... Et c'était là, puis je le sentais me crier dessus par texto.
Oui.
Tellement, les gens sont tellement engagés là, dans le soccer.
J'étais au Blackstone, puis là, le match venait de finir, 14 Suisse, avec mes gars. Puis là, j'ai dit aux gars, les gars, ça vient de finir. Le 14 a égalé dans les dernières minutes. On s'est tapé des mains, c'est juste qu'on s'est pas serré les bras pour dire « Ça y est, notre parcours est ouvert! » T'imagines? On regarde à peu près jamais de soccer, c'était la trail s'ouvre.
Mais en même temps, si ça, des événements comme ça peuvent permettre... Je prends l'exemple de Félix Auger-Aliassime dans les dernières années.
Clairement.
Mboko en ce moment aussi. Ginkan
Bresco. Tu ne te souviens pas d'Eugénie Bouchard.
À quel point ça a créé un intérêt beaucoup chez les jeunes. Et c'est un intérêt qui était peut-être moins... sporadique que chez les adultes. T'sais, nous autres, le tournoi va être fini, puis on va comme laisser aller ça un peu, puis ça va aller à la prochaine Coupe du Monde avant que l'enthousiasme revienne. Mais des fois, c'est ça. Chez les jeunes, ça peut semer quelque chose de... Parce que, tu sais, moi, je l'entends, le discours, là. Les amis de mon plus vieux, là, on s'en va à l'école le matin, là, puis juste depuis le début du tournoi, là, whoop, là, il y en a un ou une qui dit « Ouais, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je vais être joueur de soccer professionnel. » Tu sais, le tournoi vient de commencer, mais à partir de là, si le kid est inscrit à un camp de soccer ou s'il est inscrit à une équipe de soccer cet été, on ne sait jamais ce que ce genre d'événement-là peut créer chez les jeunes.
Les stades sont remplis, même aux États-Unis. Hier, Côte d'Ivoire, Équateur, 70 000 personnes à Philadelphie pour voir le match.
Ça montre aussi à quel point il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent.
Ceux qui se le demandent, 10e minute de jouer, c'est toujours 0-0 entre l'Espagne et Cap-Verdé.
Bon, j'ai deux choses à dire. Premièrement, je veux confirmer que l'Uruguay est effectivement une démocratie, une des plus établies du continent.
Puis là, on me dit par texto que ça ressemble au Danemark.
Ouais.
Fait que je suis full heureux. Full heureux de prendre pour eux.
OK. Puis, deuxième chose, bon, vous savez que j'écoute pas vraiment les matchs, là, puis que c'est très limité mon intérêt pour le sport. Moi, la dernière fois que j'ai vraiment suivi la Coupe du Monde, c'est quand l'Italie a gagné, puis que Zidane a envoyé un coup de tête là, dans le joueur de soccer.
Oui. Un coup de boule.
Je m'en souviens très bien. Mais j'adore les documentaires sportifs.
Ouais.
Ceux qui n'ont pas vu Le Bus, donc le documentaire Le Bus, les Bleus en grève, c'est disponible sur Netflix. Ça raconte un peu les années qui ont suivi cette Coupe du Monde de 2006, quand la France avait lamentablement perdu à cause de leur attitude. Comment ils sont rentrés dans une période hyper difficile. Et c'est l'histoire d'une gestion de crise tellement mal géré, moi qui est passionné de relations publiques, et j'adore les documentaires sportifs, bizarrement, même si j'aime pas bien le sport, c'est excellent. On est en train de vivre la Coupe du Monde ces temps-ci. Là. Si vous voulez prendre un break entre deux matchs, écoutez ça.
Ouais, faut que je regarde ça. Fait que Uruguay, je peux prendre pour eux ce soir. Puis demain soir, ben quand je vais venir du gym, c'est facile, c'est l'Irak contre la Norvège. Fait que là, je vais prendre pour nos amis norvégiens. Ça va être aussi simple que ça. Jeudi, je prends pour le Canada. J'adore le soccer. On passe au caucus?
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Hey, on me dit par texto, ouais, mais si le 14 gagne contre le Canada, le rêve est pas mal fini. Je le sais. Fait que jeudi 18h, là. Ouf! C'est le gros match. Je pense que je vais faire une exception. D'habitude, du lundi au jeudi, je prends pas d'alcool, mais là, je dis pas le choix. Si Connor McDavid avait son drink vendredi, puis il joue dans la Ligue nationale.
Ouais, mais c'était peut-être un mocktail, là, Jeff.
Exact. Puis t'as pas besoin d'alcool pour avoir du plaisir et célébrer.
Ouais,
vous avez raison. Merci de m'en remettre. Merci de m'en remettre dans le droit chemin. Anto, ça a brassé pas à peu près en fin de semaine. Il y a eu l'histoire, évidemment, avec le SPVM. On va en parler tout à l'heure avec l'avocate criminaliste Vicky Powell, parce que ce que je veux parler avec toi en premier lieu, c'est vraiment de cette attaque... PLQ, PQ, on est dans des histoires criminelles. On commence tout d'abord avec Paul Saint-Pierre Plamondon, vendredi dernier à l'Assemblée nationale.
Qui impliquait des dizaines de personnes. Il y a des liens qui ont été faits avec un député fédéral. Est-ce qu'il y a des liens avec le crime organisé? Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y a un événement de financement pour créer une caisse occulte qui a eu lieu. Alors, moi, je ne suis pas enquêteur de l'UPAC, mais je sais que lorsque l'UPAC enquête, c'est parce qu'on soupçonne des activités criminelles.
Là, Charles Milliard n'était pas content.
Alors, cette fois-ci, ça ne passe pas. Il y a toujours bien des limites. En associant le Parti libéral du Québec au crime organisé, Paul Saint-Pierre Plamondon a franchi une ligne qu'aucun chef politique sérieux ne devrait avoir franchi.
Mise en demeure contre Paul Saint-Pierre Plamondon de la part du Parti libéral du Québec. Anto, dis-moi donc, Charles Milliard, de par son inexpérience en politique, est tombé direct dans le piège, dans le panier de crabes?
Bon, je suis d'accord avec la deuxième partie de ta phrase, il est tombé dans le piège, mais je pense pas que c'est une question d'inexpérience. Puis j'entends beaucoup ça ces temps-ci, là, que l'équipe autour de lui serait inexpérimentée et tout, ouais. Mais moi, ce que j'entends dans les couloirs, c'est que il y avait pas mal de pression de libéraux d'expérience.
Oui, c'est ça.
Des anciens.
Le fameux caucus, ces fameux anciens-là qui sont impliqués.
Qui avait comme beaucoup d'émotions par rapport à ça. Parce qu'évidemment, quand tu es libéral, tu te fais accuser d'être corrompu de manière régulière. Et d'ailleurs, il faut quand même se dire qu'il y a eu des événements troublants entourant le Parti libéral, puis qu'on ne peut pas les ignorer non plus. Puis c'est pas pour rien que Paul Saint-Pierre Plamondon, il voit un terreau fertile de lancer des messages cela dans l'espace public.
Il a rappelé Tony Tomassi en conférence de presse samedi.
Le financement pendant la campagne de Pablo Rodriguez plus récemment. Il y a eu des enquêtes de l'UPAC sur le Parti libéral. On peut rappeler la commission Charbonneau. Il y a toutes sortes de choses à rappeler. Bon, maintenant, est-ce que PSPP avait le droit ou avantage à ajouter ce petit terme? Tu sais, tu mets le petit orteil là, l'autre bord de la ligne, là. Crime organisé.
Ouais.
Le crime organisé, c'est pas juste des activités criminelles qui sont organisées. Ça réfère à quelque chose de bien particulier.
Bien, ça réfère à une
mafia,
structure, c'est ça.
Les Hells, ça, c'est du crime organisé. Ça, c'est un concept qui existe. Bon, le PQ s'est défendu dans les heures suivantes en disant, bien, c'est pas, nous, c'est une définition juridique, c'est pas nécessairement ça à quoi on faisait référence. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, là.
Ben oui.
On s'entend. Puis, juste vous dire aussi, le point de presse de PSPP vendredi, c'était les bilans à l'Assemblée nationale. C'est la dernière journée des travaux parlementaires de toute la législature, là, depuis 2022. On s'en va pour la pause estivale. Les partis s'en vont en campagne. C'est comme le dernier point de presse très solennel avant de commencer vraiment la pré-campagne électorale où là, les gens vont plus être dans des épluchettes de bledin puis dans des barbecues. C'était un moment important. Puis tu veux laisser un message qui va être celui... Tu sais, avant Noël, on dit de quoi les gens vont parler autour de la dinde. Bien, le vendredi de derniers travaux de l'Assemblée nationale, c'est de quoi les gens vont parler autour de la piscine ou autour du barbecue. Et en général, le message, c'est « on a été très bon, voici ce qu'on a fait, puis les autres, c'est des pas fins, voici, voici, voici. » Et c'est toujours plus difficile de faire passer un message positif qui va percoler dans les médias qu'un message négatif.
Fait que là, de dire « criminel »,« crime organisé », tu te dis « ça va jaser autour du barbecue ».
Et ça fonctionne. Ensuite, ben une fois que Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit le mot « crime organisé », sur quoi vous pensez que les questions portaient? Les journalistes, après le discours de PSPP, posent des questions. C'était tout. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? À quoi vous voulez référer? Vous dites que le PLQ a des liens avec les Hells. Qu'est-ce que vous... Donc, toutes les questions après tournent autour de ça. Tous les gros titres font référence à ça. Et ça prend beaucoup, beaucoup d'espace et ça vole toute la lumière. Donc, moi, j'ai l'impression que PSPP a une impression de contrôle quand il fait ça. Ça lui donne l'impression que c'est lui qui mène le jeu.
J'aime ça.
Les autres réagissent à ce que lui a dit. Les journalistes parlent de ça. Ils ne parlent pas d'autre chose pendant ce temps-là. Ils ne posent pas des questions sur certaines choses peut-être qu'il ne ferait pas son affaire.
Il ne ramène pas « tu t'en veux-tu encore pour ta sortie avec les artistes? »
Non, c'est ça.
Il ne parle pas de tout ça.
Ça occulte d'autres enjeux. Et je pense qu'il savait très bien que Milliard allait tomber dans le panneau. Ce qui s'est passé. Je reviens sur Charles Milliard, mais pour le PQ, c'est sûr que ça laisse une impression deux fois dans la même semaine de jeter des bombes. T'sais, il y avait eu le TGV.
Oui.
Puis là, on arrive avec le crime organisé. On pourrait s'interroger sur l'impact que cette approche-là a sur l'électeur moyen. Parce qu'il y a les électeurs qui sont déjà acquis, puis ça va assez bien au PQ. Mm-hmm. On est encore à 30 % dans les sondages. Mais on va s'en aller en campagne électorale. Puis il y a les péquistes purs et durs, mais il y a aussi l'électorat un petit peu plus hésitant. Ces temps-ci, les gens ne sont pas vraiment décidés. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme message cette dernière semaine de travaux parlementaires pour Paul Saint-Pierre Plamondon? Bien, c'est sûr, je trouvais ça plus négatif. Ça donnait une impression aussi qu'on veut vraiment brasser beaucoup.
Oui.
Est-ce que c'est stratégique? Je laisse la question en suspens pour l'instant, on y revient. Et maintenant, la réaction de Charles Milliard et du Parti libéral. Premièrement, vendredi, ils n'ont pas réagi.
Non.
Ils ont dit... Leur ligne...
C'est écrit, là, mais...
Ouais. Mais leur ligne, c'était « on va réécouter ça, on va relire ça ».
En plein ça.
Puis là, je me disais, bien, premièrement, vous l'aviez écouté, là, ça prend 5 minutes. Je l'ai entendu, tout le monde l'a entendu. Je ne sais pas ce que vous voulez réécouter.
Oui, puis là, vous avez du staffer politique anyway qui est en train d'écouter sa conférence. Fait que vous avez tout entendu.
Puis envoyer cette ligne-là à tout le monde, ça prenait plus de temps pour écrire qu'il allait réécouter que de réécouter. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé ça un peu bizarre, puis je me suis dit, check ben ça. S'ils sont lents comme ça, là, c'est parce qu'ils s'en vont dans la voie juridique.
C'est parce qu'il y a des avocats. Ah.
Les avocats sont sur le cas. Et ça, ça amène une autre question. En politique, on s'attaque les uns les autres. Puis des fois, on ne dit pas des choses qui sont tout à fait objectivement vraies ou quoi que ce soit. Si tu commences à poursuivre les gens puis envoyer des mises en demeure, à chaque fois que tu as l'impression que c'est de la diffamation, ça finira plus, je vous le dis.
Oui, puis est-ce que dans l'enceinte de l'Assemblée nationale où Paul Saint-Pierre Plamondon était, il n'y a pas une espèce de...
D'immunité.
Oui, d'immunité, voilà, merci.
Au salon bleu, donc puis là, qui est le rouge en ce moment, mais okay. En chambre...
Pas dans le hall.
Exactement. Donc, quand tu es en chambre, tu es immunisé. D'ailleurs, si quelqu'un est poursuivi par la police puis il rentre dans le salon bleu, ils ne peuvent pas l'arrêter. Donc,
t'es
c'est vraiment
immunisé,
ça.
Mais ceci bon dit, tu n'as pas le droit de dire le mot girouette.
C'est ça, il y a un lexique.
Fait que t'es immunisé, mais il n'y a pas grands attaques que tu peux faire.
Oui, mais ça, c'est autre chose, parce que tu ne te feras pas poursuivre pour diffamation, mais tu peux...
Il y a un décorum.
Il y a un décorum, puis il y a des règles, puis il y a d'autres procédures qui sont un peu à part.
Parce qu'André Fortin a dit justement le terme « mafieux » vendredi dernier, puis là, la présidente a dit
«
vous allez retirer votre mot », puis je le retire. Mais il est content parce qu'il l'a passé quand même.
Il faut comprendre que c'est un terrain qui a ses propres règles, un peu. C'est un peu comme l'armée versus la société civile. Ils ont leur cours martial. Ben, l'Assemblée nationale a d'autres procédures un peu à part.
C'est exactement comme quand je joue au Uno avec mon plus jeune.
Ah, il y a des règles qui s'appliquent.
Règles.
Oui, c'est exactement.
Il change, hein, il change d'une partie à l'autre de sa départ.
C'est ça, faut suivre. Faut suivre la game absolument.
Exact.
Je trouvais ça intéressant la sortie de samedi de Paul Saint-Pierre Plamondon quand il a mentionné bon, un paquet d'affaires encore là, il a passé un paquet de messages aussi sur le fait que, tu sais, dans les derniers mois, il y en avait eu quand même beaucoup des retours juridiques de la part du PLQ envers le PQ. Mais il a mentionné une phrase, puis là, je sais pas d'un point de vue légal à quel point ça tient ou pas, mais il a dit « j'attaque pas personne, je parle du parti politique, il a jamais nommé personne non plus ». Fait que est-ce que ça tient lieu et place dans une situation...
Je
comme
pense que oui. Je pense que quand tu attaques une organisation, mais ça dépend encore une fois. Puis les questions de diffamation, en passant, c'est des poursuites qui sont difficiles à gagner. C'est dire quelqu'un m'a diffamé, il faut que tu montres vraiment que tu es lésé, qu'il y avait une intention qui était malicieuse derrière ça. Bref, je ne suis pas avocate, là, je veux pas trop m'avancer plus loin que ça. Mais c'est assez difficile à prouver qu'il y avait mauvaise intention, que tu as été lésé, puis que c'est vraiment de la diffamation, surtout qu'on est sur le terrain politique. Il va en avoir des attaques.
Ben, c'est ça.
Moi, le moins possible des procédures juridiques sur le terrain politique. Je comprends leur colère. C'est fatigant de se faire dire des affaires de même. Puis moi aussi, je trouve que le mot crime organisé, ça allait un peu loin. Maintenant, ils font juste rallonger la nouvelle. Donc, il y a plus de nouvelles et de gens qui parlent et de messages dans lesquels il est écrit « Parti libéral, crime organisé, UPAC ».
Okay? T'as tellement raison. Moi, ma réaction, ça aurait été de dire « Hey, savez-vous quoi? Nous autres, on va être les grands garçons, on n'ira pas jouer sur ce terrain-là. »
Il s'en va dans la boîte, je ne les suivrai pas là-dedans.
Ciao, bye.
Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Là, ce que ça donne comme impression, c'est qu'il y a deux messieurs là, qui chicanent, qui s'envoient des mises en demeure, puis l'autre envoie des insultes, puis whatever. Et pendant ce temps-là, qui sort gagnant de ça?
Ben, je vais te faire entendre qui sort gagnant de ça. Écoute bien ça.
Ben, je pense que les gens le voient, le changement. En tout cas, moi, je le sens beaucoup sur le terrain, puis les collègues aussi me le disent. Le fait que j'arrive avec ma couleur, ma personnalité, déjà que je sois une femme, hein, ça génère un changement. Changement d'approche, changement de style. Et puis, nos priorités, les Québécois ont pu voir au cours des deux derniers mois, là, comment on fonctionne sous un gouvernement Fréchette.
Et voilà. Le changement d'approche, le changement de style de Christine Fréchette vient de l'emporter sur la chicane PQ-PLQ. Ils ont redonné vie à la troisième voie.
Et une erreur que les partis politiques font souvent, c'est de parler beaucoup d'eux-mêmes et très peu des Québécois.
Ouais.
Puis, à leur défense, je vous le dis, c'est beaucoup plus difficile de faire passer dans l'espace public des bonnes nouvelles, des propositions, des trucs constructifs que de la controverse. Évidemment, la controverse, on met la loupe grossissante toujours dessus. Mais des fois, quand on est dans... Tu sais, on regarde ça, là. Puis là, tu te dis, bon, ben à propos des services publics, des finances publiques, des grands projets, on parle pas de ça présentement. Ce qu'on dit, c'est tu m'as insulté. Non, c'est toi qui avais commencé. C'est une attaque personnelle. Non, toi, c'est une attaque personnelle. Pendant ce temps-là, On n'est pas en train d'établir sa vision. Puis je ne suis pas fan des faux dilemmes. Tu peux faire deux choses en même temps. Mais honnêtement, si j'avais été à la place de Charles Milliard, j'aurais eu exactement la ligne que tu avais tantôt. C'est-à-dire, écoutez, vous voyez, commencez à comprendre un peu le chef du PQ, comment il fonctionne.
C'est ça,
moi, je n'embarquerai pas là-dedans.
Exactement.
Moi, ma priorité, c'est l'économie. Est-ce que ça vous intéresse? Ben, parfait. Ouais. Voici mes propositions. Bon, il faudrait qu'il les précise, mais ça, c'est un autre enjeu.
L'économie, la saine gestion des finances publiques, c'est ce qu'il nous a répété ici sur les ondes de Boulevard 101. Et Marc Tanguay aussi, le leader parlementaire. Puis vois-tu, quand je lis les textures, continue de réagir au 418-971-101. C'est unanime. Les gens disent, pas d'un paquet de niaiseries. Ça nous tente-tu pas d'embarquer dans ces chicanes-là?
Puis les péquistes sont peut-être un petit peu aveuglés par les commentaires sur les médias sociaux, parce que je suis allée voir sous les publications.
Ça m'intéresse, parce que t'es ceux qui parlent juste à leur base, puis qui veulent donc toujours que leur base là, elle soit derrière.
La base
elle,
est derrière le PQ. Ça, je peux vous en passer un papier.
PCQ fait souvent cette erreur-là. Respect citoyen ici, l'opposition officielle à la Ville de Québec fait cette erreur-là à peu près à chaque jour. Fait que là, tu es en train de me dire que le PQ est embarqué là-dedans?
Ben écoute, je le sais pas. Là, je veux pas leur prêter des intentions. Mm-hmm. Paul Saint-Pierre Plamondon n'aime pas ça. Mais quand je vais voir les commentaires, le Parti libéral se fait ramasser, évidemment. Évidemment. Puis les libéraux n'ont jamais été forts, ces médias sociaux, en passant. Quand tu t'en vas sur X, débattre avec des gens, il y a une surreprésentation d'un type d'électeur.
On sait bien, les libéraux, c'est juste des anglophones de 65 ans qui
votent
pour eux
autres. Non, mais eux autres, ils votent, mais ils commandent pas sur les médias sociaux.
Ben, c'est ça, exactement.
Donc, tu sais, des fois, il faut faire attention au miroir déformant. Mais le PLQ se fait ramasser. Puis ça vient renforcer, pas l'idée que Paul Saint-Pierre Plamondon a bien fait de sortir le mot crime organisé. Mm-hmm. Ça, c'est un autre enjeu. Mais ça vient faire ressortir que le PLQ avait rien à gagner. Ils gagneront pas à faire ça.
Exactement.
Donc, en tout cas, bref, j'espère qu'ils vont avoir appris leur leçon.
Mais en même temps, le PQ, je me fie au texto ici, ben, tu sais, faut que tu ailles conquérir des électeurs. Faut pas juste que tu motives ta base.
Mais c'est ça. À un moment donné, tu as ta base que tu dois toujours solidifier et à qui il faut que tu envoies des tinananes et c'est normal. Mais je reviens sur la question du TGV la semaine passée. La base du PQ n'aurait pas quitté le PQ si PSPP n'avait pas fait cette sortie à fond de train contre le TGV.
En effet.
Donc, ça sert à rien des fois. Alors que de rappeler les problèmes éthiques du Parti libéral aurait sans doute suffi à craquer un peu la base sans finalement amener la question de la poursuite, mais surtout sans que les journalistes soient comme « Mais qu'est-ce que vous voulez dire? » Puis là, obligé de clarifier. Puis là, il clarifie, mais il dit « Mais moi, je pose des questions. Je ne dis pas que... » Mais je... Tu sais, il me semble que dans le dosage, il y a toujours un petit problème qui pourrait faire en sorte que des électeurs plus au centre, plus modérés, qui ne sont pas les premiers à commenter sur les médias sociaux, mais quand ils vont aller dans l'urne, à quoi ils vont penser? Est-ce que c'est le genre de personne que je veux comme premier ministre?
En effet.
Je pose des questions, je n'y réponds pas. Je fais comme PSPP.
Mais c'est quand même fou. J'ai hâte de voir à l'automne comment ça va se placer. Mais tu sais, je pensais pas que c'était comme ça que ça allait se dessiner. Je pensais vraiment que le PQ et que le PLQ partaient avec une longueur d'avance, même avec l'arrivée de Mme Fréchette. Puis je pense pas être le seul qui pensait de cette façon-là. Puis tantôt, Jeff, tu parlais de l'adulte dans la pièce. La sortie de Christine Fréchette démontre que c'est clairement l'adulte dans la pièce
clairement.
En ce moment.
Ça me fait un peu penser à la campagne municipale.
Oui, Bruno Marchand était
bon
l'adulte
quand,
dans la pièce.
Quand sa maman et la chance se chicanaient. Voilà.
Ben oui, Bruno Marchand était l'adulte dans la pièce. Puis là, on a fait comment ça, Bruno Marchand, après un premier mandat difficile, a scoré 49% dans l'électorat? Ben parce que les gens votent pour un adulte.
Voilà.
Ben et c'est
voilà,
ça, ça revient
les gens
ce que tu
votent
disais.
Pour un chef aussi.
Ben oui.
Et Christine Fréchette est en train de se positionner comme une chef crédible.
Après une dure semaine quand même pour Christine Fréchette,
ben oui.
Ce que PSPP a fait, c'est ça, c'est que la semaine de la CAQ, c'était pas bon. Okay?
Ben
il y avait le rapport de la VG sur la filière batterie, c'était catastrophique. Il y avait cette histoire de lanceur d'alerte qu'on avait mis à la porte. Et là, PSPP, dans son point de presse, au lieu de continuer à fesser ce clou-là sur Christine Fréchette, surtout que les électeurs du PQ puis de la CAQ sont un peu plus proches que ceux du Parti libéral versus le PQ, a décidé de faire sa plus grosse attaque contre le Parti libéral, donnant de l'oxygène, finalement, à Christine Fréchette. Donc, drôle de stratégie.
Toutes les parties ont scoré dans leur propre but, finalement, la semaine passée.
Et voilà.
C'est ça qui s'est passé.
Oui, puis il y en a un qui avait vraiment scoré dans son propre but. C'était le PCQ avec son histoire de pamplemousse et de boissons énergisantes. Mais là, il a marqué un bon point ce matin, lettre ouverte. mentionnant que, hey, écoutez, on va avoir 4 ou 5 débats des chefs. Ça n'en prend au moins un à Québec. Éric Duhaime était sur nos ondes ce matin, dans Marceau le matin. Il expliquait premièrement tout l'aspect retombée économique que j'avais pas vu, les équipes qui sont là, le fait que l'UMQ va se déplacer pour un déjeuner, inviter les chefs, etc. Puis il a aussi rappelé que, savez-vous quoi, ça se fait un débat à Québec.
Ça serait pas la première, en passant, là, que première fois qu'il y a un débat, qu'il y a des débats des chefs à Québec, là. Moi, je me souviens, je conseillais Mario Dumont, justement, pour le débat des chefs, puis je me souviens que, je sais pas si vous vous rappelez de ça, là, la fois qu'il avait parlé du viaduc, là, puis qu'il avait sorti un papier à Jean Charest,
oui.
Puis il avait fait un gros jaser en 2007, mais c'était dans le Parlement. Ça, on a le plus bel endroit pour faire un débat des chefs, là, c'est à l'Assemblée nationale. Ils peuvent le faire soit dans le restaurant parlementaire ou dans le hall, là. Il y a deux endroits qui sont assez
grands
pour accueillir ça, puis ça ferait super.
C'est vrai que ça serait super beau comme endroit aussi, mais moi, si oui. Je peux faire une suggestion au Parti ouais. conservateur, moi, mes enfants allaient dans un CPE qui s'appelait le CPE Pamplemousse.
Ah oui!
Wow!
Si jamais,
puis des fois, on trouve que c'est une garderie en plus,
ben,
fait, tu vois.
Écoute, c'est vrai,
il
pourrait être super bien encadré.
Garderie, dans garderie des Pamplemousse.
Thématique famille.
Ça serait bon. Mais superbe sortie d'Éric Duhaime, puis honnêtement, ça en prend plus des sorties comme ça du Parti conservateur.
Tellement.
S'ils veulent monter dans l'électorat. Il a raison, la capitale nationale, c'est pas normal que tout se passe à Montréal. Déjà que les annonces se passent en majorité à Montréal maintenant. Puis toi, je veux dire, là, les réseaux de télé, là, ils se déplacent. De toute façon, ils ont des équipes à Québec, là, Radio-Can, TVA, ils ont déjà des studios. Ils doivent être capables de
organiser
un débat des chefs.
Ça se fait très bien. Puis Éric Duhaime, je trouve qu'il a rappelé avec brio que c'est lui le chef de Québec, dans le sens que les autres chefs sont tous de la région de Montréal ou de l'Estrie. Donc, c'est intéressant comme positionnement, puis c'est constructif. Puis ça fait en sorte que les autres vont se positionner par rapport à sa proposition. Je vois pas pourquoi ils diraient non, d'ailleurs, les autres partis. C'est davantage, c'est plus tannant pour les médias, soit dit en passant, parce qu'organiser des débats, c'est compliqué. Et ce sont les médias qui décident des règles de qui est invité puis comment ça va fonctionner, mais en négociation avec les partis politiques. Donc, une fois que les partis vont avoir dit « Ouais, mais nous, on aimerait ça qu'il y en ait un débat à Québec », là, on peut s'interroger sur lequel, parce qu'il y en a un avec le consortium Radio-Canada, il y en a un, il y a le face-à-face TVA, je ne sais pas s'ils vont en avoir un cette année, parce qu'il y avait eu, vous vous rappelez, l'année passée, une petite controverse, parce que TVA voulait charger aux équipes de campagne un prix d'entrée. Et il y a Nouveau qui a annoncé aussi qu'il y aurait un débat, et il y a toujours... des bonnes discussions entourant la présence d'un débat en anglais pendant la campagne.
Éric Duhaime nous a parlé de CTV aujourd'hui, là, qui organisera un débat également. Il s'en est pas caché, il était super transparent. Il dit en même temps, je le dis parce que moi, je veux faire campagne à Québec, campagne à Chaudière-Appalaches, puis là, d'être toujours pogné à aller à Montréal pour ces débats-là, ça fait pas mon affaire. Il s'en est pas caché, il était super transparent.
Puis en même temps, tu sais, c'est vrai que c'est compliqué peut-être un peu pour les équipes, mais tu sais, on a une salle de nouvelles du côté de Radio-Canada ici.
Ben
tu sais,
oui.
On a les
c'est
moyens.
C'est pas si compliqué.
Ton point était bon aussi, Jeff, ce matin, pendant l'entrevue, quand tu as mentionné, tu sais, toutes les équipes télé sont déjà équipées pour se plugger, comme on dit en bon français, assez facilement du côté de l'Assemblée nationale.
Ben, de toute façon, l'Assemblée nationale est ici. Les journalistes de l'Assemblée nationale vivent à Québec. Donc, tu sais, here we go, gagner ça à Québec.
Tu sais, pour Éric Duhaime, là, c'est le genre d'annonce, c'est constructif, c'est le fun, ça le positionne dans ses comptes et cibles, évidemment. Mais en plus, ça coûte pas une scène. Donc, moi, j'ai trouvé ça brillant. Je lui donne mon étoile de journée.
Est-ce que c'était déjà prévu ou est-ce que c'est une équipe de com qui s'est mise en place vu ce qui s'est passé la semaine passée? Il faut qu'on trouve de quoi, faut qu'on réagisse. Puis là, Eureka, hey! On va parler du débat. Il n'y en a pas à Québec. Ça ne marche pas pantoute. Puis...
C'est une bonne question. Moi, je pense que... Peut-être que c'était déjà prévu, mais je pense que le timing est vraiment bon parce que, justement, il n'y avait pas eu l'air très constructif avec l'histoire du pamplemousse et des boissons énergisantes. Puis, ils n'avaient même pas réussi à changer leur gain, c'est-à-dire aller chercher des consultations pour le projet de loi en quelque chose de positif parce qu'ils avaient décidé de continuer de chialer après que ce n'était pas assez puis qu'il aurait fallu faire ci, puis ci, puis ça pour que le projet de loi ait de l'allure. Donc, je trouve qu'ils repartent une meilleure semaine présentement, les conservateurs.
Donc, à suivre, ça va être une autre belle semaine politique parce qu'on est dans la pré-campagne. Donc, il y aura des annonces nécessairement de Christine Fréchette.
Bien, on lui souhaite d'annoncer des candidats à Christine Fréchette.
Oui,
par contre, c'est le bout qui est un peu plus dur.
Bien, t'as raison. Penses-tu que ça va venir plus tôt que tard? On essaie-tu de commencer avec un coup de circuit, puis c'est pour ça que ça prend du temps? Quand
ben, là, ils peuvent pas commencer avec une petite candidature, à mon avis. Là, ils ont la pression.
Ils
ont monté la pression. Christine Fréchette est en tournée d'entrevue ce matin. C'est souvent ce qui se passe après la fin de la session parlementaire. Il y a tournée d'entrevue des chefs, puis notamment un premier ministre. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et elle a dit, là, il y a des candidatures qui s'en viennent. Mais tu sais, je rappelle que la seule fois où on a entendu parler de candidature dans les dernières semaines depuis que Christine Fréchette est première ministre, c'était un courriel qui avait été envoyé à des jeunes leur disant « Hey, le jeune, ça te tente de t'impliquer dans la campagne, sois candidat. »
Putain, moi, je rentrais pas dans la tranche d'âge, fait que j'ai pas pu.
Désolé. Moi non plus, je suis trop vieille.
J'aurais voulu être ministre de la capitale nationale.
C'était quoi la tranche d'âge?
Je pense que les jeunes de la CAQ, c'est moins de 40 ans. Ouais. Donc, c'est jusqu'à 39, j'ai l'impression.
T'as quel âge, toi, Nick?
J'ai 39. Moi, j'ai jamais reçu ce courriel-là.
Mais il faut être membre de la CAQ, c'est normal.
Ouais. Et OK, c'est pour ça.
C'est tout en neutralité sur les ondes de la radio.
Tout à fait neutre, en plein ça. Non, mais c'est pas, je me pose des questions, des fois, parce que j'ai des amis, à une certaine époque, à la blague, qui m'avaient inscrit à la journée d'embauche chez McDonald's.
Ah, ben oui.
J'ai jamais été rappelé.
Non?
Oh. Ouais.
C'est triste.
Puis ils m'ont donné un micro.
Mais chacun ses forces.
Oui, oui, c'est ça. T'es meilleur au micro qu'avec les patates frites.
Faisais pas confiance
au
pour les Big Macs.
Au micro du service à l'auto, là, je t'aurais imaginé.
Oui, c'est vrai.
T'aurais vraiment performé
bonjour,
au service à l'auto.
Puis-je prendre votre commande?
Mais là, ça m'ouvre peut-être une porte finalement pour une future carrière, si vous parlez de ça. Ouais. Faudrait que je me dépêche
mais
à devenir
ça,
membre de la CAQ.
C'est que t'es trop jasant, t'es trop le fun. Fait que là, ça aurait pris 15 minutes par client parce que t'aurais jasé.
C'est sûr, ça aurait été problématique.
Pour la CAQ, par exemple, d'après moi, ils n'ont pas reçu tant de CV que ça.
Écoute, tu peux peut-être essayer.
Fait que je pense que si c'est écrit à Christine... Dans Limoilou, toi, en plus, tu dois chercher quelqu'un pour Limoilou.
Ah, peut-être aussi. Je ferais-tu un bon ministre de la capitale nationale?
Ben oui, tu ferais un bon ministre de la capitale nationale.
Ce serait quoi ta priorité?
Ouais.
Je te passe en entrevue, là.
Écoutez, pour l'instant, ce que je vais devoir faire, c'est évidemment m'asseoir avec les membres du caucus pour bien comprendre exactement quelles sont les priorités de la CAQ.
Il y a de l'avenir.
Parce que je ne fais pas de la politique pour moi, je la fais pour tout le monde, je la fais pour le peuple et évidemment, je veux être sûr de bien endosser mon parti et de bien servir les citoyennes et les citoyens.
Je vote pour toi.
Hein?
418-971-101, votez-vous pour Nathan Meyer. C'est tout le temps qu'on avait pour son discours politique.
À peaufiner. Un petit chair autour de l'os dans les prochaines
semaines. Exactement. Antonin Niacarini, toujours un bonheur.
Merci.
On s'en reparle demain. Vicky Power, l'avocat criminaliste spécialisé, va nous parler de ce qui s'est produit en fin de semaine au SPM. Moi, vendredi soir, je vous l'ai compté, j'étais dans mon divan en train d'écouter du sport à la TV, puis tout à coup, conférence de presse majeure à 22h.
T'as fait un petit lapsus, est-ce que tu veux que je le corrige?
Vas-y donc.
C'est pas le SPM, ça c'est autre chose.
C'est le SPVM,
oui.
En effet. T'as raison.
À ne pas confondre.
Merci de le corriger. Hey. Donc, au SPVM, Fadi Daguerre, le chef du service de police de Montréal, qui a annoncé une conférence de presse à 10h, il l'a tenu. Il a annoncé que 2 policiers étaient suspendus, 14 autres étaient attitrés à des tâches administratives. On parle de gestes de racisme qui s'est produit chez les policiers à Montréal-Nord. Après ça, dans la fin de semaine, il a dit... Hey, savez-vous quoi? Je m'attends à un tsunami d'autres plaintes. Il y a des manifestations ce soir qui vont se produire à Montréal. On espère que ça va bien se passer. Donc, on parle de tout ça avec Vicky Powell par la suite, après cette courte pause, parce que c'est un enjeu tellement majeur. Puis, je vous ai déjà donné la direction de ma pensée là-dessus quand je vous ai parlé que j'étais ouvert à tous les pays de la Coupe du monde. C'était une grande image pour dire « soyons ouverts aux autres communautés ». C'est pas vrai qu'il y a plus de crimes chez les communautés immigrantes que chez les Québécois de souche. Et ça, c'est par capita, c'est les statistiques qui le prouvent.
Viens, on jase!
Émission d'en jase, ton résumé d'actualité. Tu as manqué le caucus avec Antonine Niacarini, mais ça va se retrouver sur le BLVD.fm immédiatement après l'émission. Je vous rappelle également que notre application BLVD 102.1 est disponible pour téléchargement gratuitement sur App Store et Google Play Store. C'est le meilleur moyen de nous écouter, surtout avec les vacances qui approchent. Je suis certain qu'il y en a plusieurs qui vont être à l'extérieur, que ce soit éloigné de la grande région de Québec en camping ou ailleurs au Québec, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Ben avec notre application, tu peux nous écouter en tout temps. Aujourd'hui, c'est 22 degrés, 40 % de possibilité d'averse. Donc, on ne parle pas vraiment d'accumulation. Donc, je pense que ça va tenir. Demain, c'est 22 degrés également avec 30 % de possibilité d'averse. Ça va être ensoleillé le matin, mais il risque d'avoir des averses en après-midi. Et mercredi, c'est plein soleil, 25 degrés. Faire une petite exception, au lieu de parler de la grande région de Québec, on va parler de la région de Montréal dans quelques instants parce que très gros coup de théâtre vendredi 22h alors que le chef
du service de police de la ville de Montréal, Fadi Daguerre, a convoqué la presse et a annoncé la suspension immédiate de deux policiers soupçonnés d'actes contre des personnes d'autres nationalités. Donc, on aurait en quelque sorte collectionné les rastas de personnes dans Montréal-Nord et également 14 autres policiers qui sont affectés à des tâches administratives. Mais avant de parler de tout ça avec Vicky Powell, avocate et criminaliste, Nathan, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Une nouvelle qui retient l'attention, évidemment, depuis les dernières heures. Les États-Unis et l'Iran qui ont conclu enfin un accord de paix visant à mettre fin à près de 4 mois de guerre au Moyen-Orient. L'entente qui sera signée vendredi en Suisse prévoit notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, une route stratégique pour le transport du pétrole, les marchés qui ont réagi positivement, faisant chuter le prix brut et grimper les indices boursiers. On est descendu là, pour le brut en dessous de 80 $, ce qu'on n'avait pas vu depuis un bon bout de temps. Malgré cette avancée diplomatique, des combats persistent au Liban, où une frappe israélienne a encore fait des morts lundi. Le premier ministre canadien, lui, Mark Carney, s'est prononcé évidemment en faveur. Il y a eu une entente global, en fait, c'est pas une entente, je n'utilise pas les bons mots, mais on a envoyé un communiqué global, plusieurs pays, le Canada en fait partie. Mais là, maintenant, on souhaite profiter du sommet du G7 pour renforcer l'accord de paix annoncé entre les États-Unis et l'Iran. Il estime que les grandes puissances peuvent aider à consolider cette avancée diplomatique avant la signature officielle prévue vendredi à Genève. Carney qui a salué le travail du président américain Donald Trump dans ce dossier. Les dirigeants du G7 doivent également discuter de sécurité énergétique, de la guerre en Ukraine et des relations commerciales. Donc, on a cet accord de paix-là. Ça sera signé vendredi, mais c'est sûr que d'ici là, on va regarder du coin de l'œil ce qui se passe du côté du G7. Sinon, on en a peu parlé de ça, je trouve, mais depuis aujourd'hui, en fait, là, le Québec qui va imposer de nouvelles règles aux motocyclistes débutants.
Oui, c'est vrai.
Et le but, évidemment, c'est d'améliorer leur sécurité. Les nouveaux conducteurs, peu importe leur âge, sont désormais soumis à une tolérance zéro pour l'alcool et ne pourront plus conduire certaines motos jugées à haut risque, notamment les modèles très puissants ou conçus pour une conduite sportive. Ces restrictions qui resteront en vigueur pendant environ 3 ans, le temps pour les nouveaux motocyclistes d'acquérir de l'expérience et de développer de bonnes habitudes de conduite. La SAAQ et les écoles de conduite estiment que cette approche réduira les risques d'accidents graves. Les mesures sont saluées par plusieurs intervenants, dont une mère ayant perdu son fils de 18 ans dans un accident de moto l'an dernier. Certains commerçants du milieu appuient les changements tout en estimant que le gouvernement devrait aussi investir davantage dans l'amélioration de l'état des routes. Et un homme dans la soixantaine a été grièvement blessé ce matin du côté de Beauport après que son VUS eut percuté à haute vitesse un camion à plateforme immobilisée dans une cour en bordure du boulevard Sainte-Anne. Son état de santé est jugé incertain pour l'instant. L'incident est survenu vers 8 heures ce matin sur l'avenue du Sous-Bois, à l'intersection, pardon, de l'avenue du Sous-Bois et de la 121e rue. Les circonstances demeurent encore floues. Et selon certaines informations, les policiers n'écartent pas la possibilité d'un geste volontaire. Oh. Malheureusement, le service de police de la Ville de Québec a sécurisé les lieux afin de permettre l'analyse de la scène. Évidemment, le boulevard Sainte-Anne a été fermé à la circulation dans le secteur touché. Mais juste rappeler là, que on n'écarte pas la possibilité d'un geste volontaire. Évidemment, rien n'a été confirmé pour l'instant. Là.
Ça va être à suivre. Au sport, les Hurricanes de la Caroline ont remporté la Coupe Stanley hier, la deuxième de leur histoire, avec un gain de 3-0 à Dallas. Les Knicks de New York ont remporté leur troisième championnat en carrière, leur premier en 53 ans, grâce à un gain de 94-90 vendredi à San Antonio. En Coupe du monde de soccer, vous rappelez que le Canada a récolté son premier point de son histoire avec un match nul de 1-1 contre la Bosnie. Et en F1, c'est une première victoire pour Lewis Hamilton avec Ferrari. On jase de toutes choses à l'entour de 13h30 avec Alex Laramé. Maintenant, on va aller rejoindre Vicky Powell, avocate et criminaliste concernant le dossier Montréal-Nord avec ses policiers suspendus ou réaffectés à des tâches administratives. Madame Powell, merci de vous rendre disponible pour l'émission d'Angers. Madame Powell, êtes-vous là? Oh, il semble qu'il y a un petit problème avec Madame Powell. Je vais vérifier, voir. Ce qu'on va faire, Nathan, c'est qu'on va aller en pause. On va tenter de rejoindre Madame Powell et on vous revient immédiatement par la suite.
Jusqu'à Boulevard. De t'y informer. 102.1. Toute la semaine. Partout. La Beauce, Portneuf, Bellechasse, Saint-Og, la Côte-de-Beaupré, Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais. Effectivement. Boulevard 102.1, maintenant 100 % talk. Une propriété Leclerc Communication. On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Émission en jase de ton lundi 15 juin. Vous pouvez nous écouter via le blvd.fm. C'est notre web radio. C'est aussi les meilleurs moments qui s'y retrouvent. Deuxième tentative de rejoindre l'avocate et criminaliste spécialisée Vicky Powell. Maître Powell, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour, je vous entends bien cette fois-ci.
Ah, super! Il doit y avoir une mauvaise manipulation qui avait été faite de mon côté. Je m'en excuse.
Absolument aucun problème. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Maître Powell, beaucoup d'encre a coulé depuis vendredi 22h alors que le chef du SPVM, Fadi Daguerre, a annoncé la suspension de deux policiers et la mise en place à des tâches administratives de 14 autres policiers. Comment vous voyez la situation à l'heure actuelle à Montréal-Nord?
Est-ce que c'est quelque chose qui me surprend? J'ai eu des discussions avec des collègues ce matin, puis pas nécessairement parce que c'est des événements qui nous avaient été relatés par plusieurs clients. Ce n'est pas nécessairement des événements qui sont isolés ou qui sont nouveaux. C'est juste qu'on n'avait pas nécessairement la confirmation, si je peux dire ça comme ça, que ça avait bel et bien lieu. Donc, c'est sûr que le fait qu'il y ait une sortie publique et médiatique comme ça, ça vient confirmer un peu ce qu'on savait déjà un petit peu de ce qui se passait. Puis c'est pas juste Montréal-Nord. Je pense que c'est Montréal-Nord qui est sorti maintenant, mais c'est sûr qu'il y a peut-être d'autres villes, d'autres municipalités dans lesquelles on était conscient que ça se passait, puis qu'il n'y avait rien qui se faisait. Là. Mm-hmm.
Je vous fais entendre la porte-parole du regroupement des intervenants d'origine haïtienne ce matin en conférence de presse, et par la suite, on en discute.
Alors, pour le Rio, ces révélations sont graves, révoltantes et inacceptables. Elles viennent confirmer ce que les citoyens, les familles, des jeunes, des intervenants et des organismes communautaires de Montréal-Nord dénoncent depuis des années. L'existence de comportements discriminatoires et de pratiques qui ont contribué à pénaliser de manière injustifiable un grand nombre de résidents, notamment ceux et celles des communautés noires et arabes.
Elle est très catégorique avec le fait que ce racisme-là existe depuis des années au sein du corps de police. Êtes-vous d'accord avec elle? Moi, j'ai tendance à le croire, là, à la lumière des derniers événements.
100%, je suis tout à fait d'accord. Puis d'ailleurs, là, ça avait été mis en lumière en 2022 devant la Cour supérieure. Là, le juge Hier Jour, il y avait des experts qui étaient venus témoigner devant lui dans le dossier Luamba. Puis il y avait des statistiques quand même inquiétantes qui avaient été mises en lumière. Puis malgré ces statistiques-là, il n'y a rien qui avait été mis en place. Mm-hmm. Ça, on parle de 2022, mais c'est quand même des statistiques qui ont été comptabilisées sur une grosse période de temps. Là. Donc oui, effectivement, on le mentionne, puis même si on le plaide à la cour, là, parce que ça nous arrive de le plaider, le profilage racial, c'est extrêmement difficile à prouver.
Oui, exactement, parce que le policier va arrêter une personne, peut l'arrêter sous motif de prévention également. Je reviens à 2022, ce que vous nous racontez, est-ce qu'il y avait des recommandations qui avaient été émises à la lumière des statistiques, et si oui, quelles étaient-elles?
En fait, plutôt, il y a un article du Code de sécurité routière qui a complètement été inopérant. Donc, c'était un article du Code de sécurité routière qui permettait aux policiers là, d'interpeller, on pourrait dire, pour à peu près n'importe quoi, les conducteurs automobiles. Là. C'est le fameux article 636. Puis, ce qui était plaidé dans ce dossier-là, c'est que les conducteurs noirs ou arabes ou autochtones étaient surreprésentés dans les interpellations. J'ai les statistiques, là, les hommes noirs, c'est 4,68 fois plus de chances. Hommes autochtones, 3,27 et hommes arabes, 2,27. Donc, c'est quand même des statistiques qui sont inquiétantes là, quand on regarde ça. Mais même, tu sais, on va dire ça, vous et moi, là, traverser la rue, c'est pas problématique. Moi, je me suis jamais fait interpeller, mais il y a des gens, à chaque fois qu'ils traversent la rue, se font interpeller par les policiers. Là. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus, puis de la sensibilisation, mais non, il n'y avait pas eu de recommandation. Il y aurait peut-être dû.
Puis c'est ça, par rapport aux recommandations, parce que, tu sais, là, vous donnez l'exemple de cet article de loi-là, 636, donc on est sur la route dans ce cas-ci. Puis Une chose avec laquelle, un point en fait sur lequel je me questionne, c'est à savoir, est-ce que les policiers et policières ont des formations par rapport au fait que la conduite automobile, il y a quand même quelque chose de culturel là-dedans aussi. Donc, des gens qui arrivent ici au pays ne vont pas conduire nécessairement de la même façon que nous. Il y a des gens qui conduisent beaucoup moins vite. Il y a quand même une période d'adaptation à ce moment-là. Est-ce que ça fait partie des formations qu'on reçoit au niveau des policiers et des policières, justement, pour être en mesure de s'adapter peut-être avant de faire des arrestations qui peuvent tomber dans le profilage par la suite?
J'ai vraiment pas cette réponse-là, mais c'est sûr que ça pourrait être quelque chose qui serait pertinent éventuellement, là. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire auprès des corps de police. Puis je pense aussi que c'est bien d'inviter les communautés aussi à peut-être se présenter pour être policier, faire les études pour être policier, parce que c'est sûr qu'ils ont besoin de représentation aussi dans la police, peut-être même juste pour ramener un lien de confiance ou d'appartenance avec le service de police, mais je peux pas témoigner si oui ou non il y a des formations par rapport à ça. Mais c'est sûr que les statistiques, pour moi, là, je trouve que c'est alarmant.
Maintenant, comment faire pour retrouver le calme? Parce que là, évidemment, les communautés sont en colère. On le voit présentement. Là, il y a un point de presse qui vient tout juste de se terminer avec la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada. Il y a manifestation ce soir. Est-ce que vous attendez quelque chose d'explosif ou on va être capable de garder un certain calme et qu'on va être capable d'avoir des manifestations de façon pacifique?
C'est sûr que je pense qu'on est dans un mode solution. Donc, s'il y a des gens qui participent à la manifestation ce soir puis qui entendent l'entrevue, c'est sûr que je les inviterais à faire une manifestation calme. Là, je comprends que les gens peuvent être en colère, puis c'est absolument normal de l'être. C'est aberrant là, ce qu'on a pu voir sortir dans les journaux dans ces derniers jours-là. Mais le fait d'avoir une manifestation violente ne va pas nécessairement faire changer les choses, ou plutôt ne va pas faire du tout changer les choses. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une discussion et amener des solutions aussi. Mais je pense que la mairesse est ouverte. Puis ça, c'est bien là, qu'elle soit ouverte à entendre la communauté puis à mettre un plan d'action. Je pense que c'est la première chose à faire. Donc oui, c'est correct, manifester, mais c'est sûr que au point où on en est, une manifestation violente ne va pas nécessairement faire changer la situation.
En effet, croyez-vous que justement l'ouverture d'esprit démontrée par Fadi Daguerre, le chef de la police de Montréal et également la mairesse de Montréal, fait en sorte qu'on a plus de chances que ça se déroule de façon pacifique? Moi, je vois ces deux intervenants-là comme très attelés et à l'heure actuelle, je salue leur comportement.
Mais également, je trouve ça bien en fait qu'il y ait une ouverture, puis même si il demande au public de rester calme. Là, je pense que la mairesse vendredi avait fait un point de presse immédiatement quand la nouvelle était sortie pour inviter les gens à rester calme puis à avoir des discussions de façon pacifique. Là. C'est sûr que ça fait plusieurs fois que je pense que le chef de police est ouvert à des discussions puis qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose qui bouge. Espérons que cette fois-ci, ça va pouvoir faire changer les choses. Mais c'était arrivé. Je pense l'été dernier, là, il y avait un jeune homme qui avait été... qui avait perdu la vie là, lors d'une intervention policière justement dans le coin de Montréal-Nord. Puis il y avait eu ouverture à des dialogues, mais encore une fois, il n'y a rien qui s'était passé. Donc, je peux comprendre encore une fois que les gens, ça peut les épuiser de toujours vouloir sans qu'il y ait rien qui avance. Là. Donc, espérons que cette fois-ci, on puisse vraiment avoir un dialogue et que suite à ce dialogue-là, il y a vraiment des mesures qui soient prises en place, parce que c'est sûr que ça ne peut pas continuer comme ça. Là. Il y a une colère et une tension qui se crée. Ça va juste rendre la relation entre le citoyen et les policiers plus difficile.
Pour rappel, on parle avec Vicky Powell, avocate et criminaliste. On parle de cette situation à Montréal-Nord où deux policiers ont été suspendus et 14 autres réaffectés à des tâches administratives en raison de gestes de racisme qui auraient été posés contre la communauté à Montréal-Nord. Madame Powell, parlant de gestes, je vous nomme ministre de la Sécurité intérieure aujourd'hui. Est-ce qu'on en accélérer les caméras corporelles pour les policiers? Je pense qu'on est rendu là.
C'est sûr que moi, je suis avocate de la défense. Là, donc, pour ma part, les caméras corporelles, c'est quelque chose qui est essentiel. Là. On le voit déjà dans d'autres provinces. C'est sûr qu'il y a des pour, il y a des contre, là, notamment les coûts. Mais c'est sûr que les caméras corporelles permettraient d'assurer une transparence complète. On aurait le début de l'intervention jusqu'à la fin de l'intervention. Si vous citoyen a un comportement qui est inapproprié, à ce moment-là, on va être capable de le capter.
Exactement.
Si c'est le policier qui a un comportement inapproprié, bien, on va être capable de le capter également. Mm-hmm. Puis dans les deux cas, il y a des sanctions ou d'autres décisions qui pourront être prises. Donc, je trouve que des deux côtés, ça pourrait être une bonne solution. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais on le voit aux États-Unis, ça ne change pas grand-chose. » Peut-être. Mais je pense que quand même, c'est nécessaire à Montréal pour minimalement là, venir apaiser les tensions actuelles.
Madame Vicky Powell, avocate et criminaliste, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission On en jase ce midi. Au plaisir de se reparler dans un contexte plus positif.
Ben, je l'espère. Bonne journée.
Bonne journée. Merci beaucoup, Vicky Powell, avocate et criminaliste. Moi, je sais que ma pensée va peut-être aller à l'encontre de la majorité de nos auditeurs, mais des fois, c'est important d'être courageux dans notre prise de position. Mm-hmm. Moi, honnêtement, je suis révolté par ce qui s'est passé à Montréal-Nord. Le racisme n'a pas sa place dans notre société. Puis quoi que certaines personnes en pensent en disant « Ouais, mais ils sont acharnés avec les policiers. Ouais, mais... » Non, non, non. Tu sais, quand on collectionne des rastas, quand il y a 14 autres policiers qui sont au courant puis qui ferment les yeux, puis il y en a deux qui sont à la tête de ce mouvement-là, je suis très heureux de voir qu'il y a des policiers avec une bonne conscience qui sont allés voir le chef puis qui ont dit « Hey, ça n'a pas d'allure ce qui se passe là. Faut que t'enquêtes. » Parce que nous, on est à l'encontre de ça. Tu es le responsable de la loi et l'ordre. Tu te dois d'avoir un jugement impartial dans 100% des
Absolument.
Cas.
Absolument. Puis ça, là-dessus, même comme tu dis, Jeff, même s'il y a des auditeurs auditrices qui sont pas d'accord avec nous, tu sais, moi, j'ai grandi à Limoilou.
Oui.
Puis je me souviens être jeune, être au secondaire, puis on traîne dans des parcs après l'école. Puis c'est vrai, là, ce que je te raconte là. Tu sais, on avait des amis qui venaient de partout. On avait, tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup l'arrivée des Kosovars.
Oui.
Ici, au Québec, à l'âge que j'avais. On avait des amis rwandais aussi. Si on était une gang de blancs dans un parc, à traîner au parc Ferland,
ça allait bien.
Le char de police passait, ralentissait un peu, puis continuait son chemin. Mais quand les policiers s'arrêtaient, mettaient les cerises, puis débarquaient de l'auto pour venir nous jaser, la plupart du temps, c'est parce qu'on avait quelqu'un qui n'était pas blanc avec nous dans la gang.
Exactement.
À ce moment-là.
Non, non, non. Être ostratisé de cette façon-là, on ne sait pas c'est quoi de nous.
Non, c'est ça. Puis ça fait longtemps, ça, que ça existe. Puis tu sais, les caméras corporelles, évidemment, dans ce cas-ci, on parle quand même de Montréal, mais tu sais, partout, même à Québec aussi.
Ben oui.
Tu sais, à Québec aussi, là, on est une région qui est de plus en plus multiethnique. Puis si ce genre de comportement-là se produit pour vrai, c'est inacceptable. Tu sais, tu peux pas ne pas avoir de bonnes raisons d'interpeller ou d'arrêter un individu. Puis j'utilise le terme individu ici parce que c'est ce que nous sommes tous, des humains, des individus.
Exactement.
Ce que j'ai aimé beaucoup là, dans la sortie du chef de police du côté de Montréal, là, M. Fadi Dagan, c'est quand il a dit, tu sais, l'annonce de vendredi est assez particulière parce qu'en général, je ne l'aurais pas fait, j'aurais laissé l'enquêteur poursuivre son travail. Mais j'ai décidé de sortir tout de suite parce que c'est trop grave ce qui se passe en ce moment. Puis c'est le côté... Je ne veux pas aller trop loin dans ce que je vais dire, là, parce que je veux faire attention pour ne pas me mettre les pieds d'un plat, moi non plus, mais comme tu disais, tu sais, il y a une espèce de... Il y avait quelque chose qui s'organisait là, au sein de ces policiers-là, là, avec l'espèce de côté de collection, de collectionner les rastas, puis de... Tu sais... Avoir une espèce de concours à l'interne
Exactement.
Alors que t'es policier à savoir c'est qui va en avoir le plus. On est où, là?
Ouais,
à quoi on joue, là?
Exactement. Il a dit qu'à l'endroit où il était rendu dans l'enquête, il ne pouvait plus permettre à ces deux policiers-là d'être dans la communauté parce que sinon, le lien de confiance allait être brisé totalement. Donc, il a dit que les 14 autres étaient encore, justement, sous enquête. Puis que normalement, il n'aurait pas sorti. Mais il a fait le bon geste en les retirant immédiatement de la communauté. Puis là, évidemment, ben, c'est tellement gros, ça implique 16 policiers qui n'avaient pas le choix de faire une conférence de presse.
Puis il a bien fait de le faire aussi parce que ça va dans les deux sens. Puis là où je m'explique, c'est que le visage puis la perception qu'on a des policiers dans les dernières années est en train de changer aussi. J'en ai des amis qui sont dans la police, autant dans le service de police de Ville de Québec que du côté de la SQ. Ce sont des bonnes personnes. C'est des gars et des filles qui sont droits
ben
et droites, qui font ça pour les bonnes raisons. Puis à cause d'un petit groupe comme ça, là, on va retomber dans le préjugé aussi envers la vision qu'on a de nos policiers et policières. Il faut faire attention, là. Les policiers et les policières, dans les dernières années, ici dans la Ville de Québec, font énormément de travail social.
Ah, vraiment?
Okay? À intervenir auprès des gens sans être en mode arrestation tout le temps, puis en mode brutal, puis arriver pour faire comme « Hey, c'est moi la police, c'est moi qui... » Ça aussi, ça a énormément changé. Oui. Mais parce qu'il y a des individus encore au sein des services de police qui agissent comme ça, bien, c'est sûr que la balance repart de l'autre bord vraiment rapidement. Puis là, mais la perception des citoyens et des citoyennes par rapport au groupe de police fait en sorte que, ah ben on sait bien, c'est tous des pareils, puis ouais. Là, ils font ça, puis ils vont là, puis c'est des trappes à tickets, puis ils vont les arrêter, puis ce n'est pas ça non plus. Il y en a une gang qui doit être fâchée aujourd'hui.
Malheureusement, ton groupe, c'est toujours le maillon le plus faible qui le décrit dans le public, malheureusement.
C'est ce qui fait le plus jaser.
Exactement.
C'est ça.
C'est pour ça qu'il faut que, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, voilà la manifestation à Montréal ce soir, il faut que ça se passe de façon pacifique. On n'y gagne rien avec la violence, que ce soit du côté du corps policier ou de la société, on ne gagne rien avec la violence. On gagne au dialogue. Un auditeur nous écrit « La caméra corporelle aurait dû être instaurée il y a plus de 10 ans. » Je suis tellement d'accord. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore ça au Québec. Ça viendrait tellement dédramatiser des cas. Parce que là, évidemment, tu sais, aussi sur les médias sociaux, je voyais beaucoup de vidéos sortir de violences policières, mais en même temps, des fois, c'est des courts vidéos. On n'a pas l'ensemble. Donc, c'est pour ça que la caméra corporelle permettrait justement de voir ça du début à la fin. Mais très content que le chef de police du SPVM fasse son travail. Le racisme n'a pas sa place dans notre société, mais pas du tout. Il faut vivre ensemble collectivement, puis il faut trouver des alternatives justement pour bien collaborer dans notre belle société, pour faire plaisir à Antonine Iaccarini, dans notre belle nation québécoise. On fait une courte pause. Nathan, tu nous le disais tout à l'heure. Entente entre l'Iran et les États-Unis.
Ouais. Bon,
c'est une vraie entente? C'est une entente boboche pour les États-Unis? L'Iran, tu gagnes du pouvoir? L'UFC est à la Maison-Blanche? Le G7 commence aujourd'hui en France? Bref, pas mal de choses à jaser en politique américaine et internationale. C'est pour ça qu'on a fait venir Luc La Liberté qui va nous jaser dans quelques instants à l'émission d'En Jase.
OK. Seulement 1 $ plus taxes, exclusivement sur l'appli McDo. Téléchargement de l'appli et inscription requis dans les McDo du Canada participants.
Ici Pierre-Luc Funk et je suis fier de vous présenter le grand spectacle de la fête nationale dans la capitale. En direct des Plaines d'Abraham, en compagnie de Lou-Adrian Cassidy, Claude Dubois, Sarah May, Gab Bouchard, Marie-Pierre Arthur, À la claire ensemble, Mélissa Bédard, Joseph Saranès, Marie-Denise Pelletier, Mia Tiner, Daniel Boucher et Marie-Mé. Soyez des nôtres pour le grand spectacle de la fête nationale dans la capitale, le mardi 23 juin, 21h30, exclusivement à Télé-Québec.
Ici Éric Duhaime. J'ai travaillé en politique puis ici à la radio parce que je crois que les gens ordinaires méritent quelqu'un prêt à dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Même quand ça dérange, j'ai jamais hésité à prendre la parole pour les gens que personne n'écoute. Pour les familles qui comptent leurs sous à l'épicerie, pour les entrepreneurs qui portent le poids de l'État sur leurs épaules, pour les patients qui attendent trop longtemps leur traitement contre le cancer, pour les jeunes qui ont abandonné leur rêve de s'acheter une maison. Ces gens-là méritent un politicien qui va pas les abandonner. Ils méritent un changement. C'est pour vous autres que je me bats.
Acheter un bon système de chauffage ou de climatisation, ça peut vite devenir compliqué. Choisir le bon modèle, comparer les prix, comprendre les subventions. Ouf! Hey, chez Enviro-Confort, on vous rend ça plus simple et on va jusqu'à vous faire vivre une vraie expérience pour l'achat de votre thermopompe. On vous conseille, on trouve le meilleur équipement pour votre maison, on s'occupe de l'installation et même de vous montrer comment ça marche. Bref, vous vous occupez de rien, sauf d'être bien chez vous. Enviro-Confort, le confort sans le moindre effort.
Équipez vos aventures de plein air chez Sail. Économisez jusqu'à 25 % sur l'équipement de camping et de plein air, ainsi que sur les vêtements, les chaussures et bien plus encore. Sail, votre destination plein air 100 % québécoise.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Faites partie de la famille Kia Beauport. Découvrez le Kia Sportage 2026 à partir de 117 $ par semaine. Un VUS idéal pour la famille. Passez nous voir à Beauport.
Kia Beauport.
Aubaine, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et chapeaubaine.com. Chapeaubaine, des marchands de bonheur.
À Boulevard 102. Jusqu'à 14h, on en jase.
Boulevard 102.1.
On en jase, son émission d'actualité du midi. On traite toujours des grands enjeux. On va sûrement retraiter un peu plus de politique municipale, Nate, demain, parce que c'est conseil de ville. Fait qu'il y a toujours des petits points de presse.
Ben oui.
Il y a toujours nos politiciens. Le maire, qui est en Belgique et en Espagne, nous a ramené un sommet des maires francophones puis un sommet du vélo. Fait qu'on a des retombées économiques.
J'avais pas vu le sommet du vélo.
Ouais, il l'avait annoncé ça avant de partir, mais il allait justement conclure le deal. Donc, on va avoir certaines retombées économiques de ces sorties-là du maire. Je sais qu'on se pose toujours la question, et avec raison. Là, t'sais, moi, quand le maire sort, je veux que ça rapporte. Je veux pas qu'il sorte pour sortir puis qu'on n'ait rien au bout.
Non, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est important d'avoir un retour sur l'investissement.
Exactement.
Comme on dit, ça vaut la peine.
À la météo, je vous le rappelle, 22 degrés, 40% de possibilité d'averse pour aujourd'hui. Mais d'après moi, si je me fais Environnement Canada, ça va tenir. On va s'en sortir. Demain, par contre, le soleil du matin va devenir nuageux et il y aura des averses en fin d'après-midi. Mais mercredi, c'est le retour du soleil à 25 degrés. Parlant de pluie, on l'a craint hier, Nate, mais on a réussi à s'en sortir à la Maison-Blanche. Et Donald Trump a pu faire son gala de UFC pour ses 80 ans. On en parle avec Luc La Liberté. Luc, as-tu suivi ce gala UFC?
Pas au complet, pour être honnête, mais par moment. Et si on oublie le volet politique, parce qu'il est très important, le volet politique derrière ça, ce n'est pas très bien reçu par la population.
Oh que non, hein?
Mais qu'est-ce que c'était spectaculaire pour ceux qui aiment la UFC. Je répète, c'est difficile parce que Donald Trump est là et que c'est la Maison-Blanche. Mais en très mauvais français, comme setup, comme disposition, comme événement, le déploiement avant, pendant et après, c'était très spectaculaire. Mais je te disais, en même temps, il faut composer avec tout le volet politique qui accompagne cet événement-là. Il y a des controverses sur les liens entre la Maison-Blanche et Dana White, le Pentagone, il y a le secrétariat d'État. Donc, on a fait de la UFC, en passant, un partenaire diplomatique. Et il y a beaucoup d'Américains qui considèrent que ce spectacle-là n'était pas digne de la Maison-Blanche. J'ai des chiffres, là. Écoute, je te cite ça de mémoire.
Vas-y.
J'ai vu ça tôt ce matin. Donc, ils sont à peine 31% des républicains à considérer qu'on devait faire ça sur les parterres de la Maison-Blanche.
Ouch! Républicains, là! 31% des républicains.
Et si on prend dans l'ensemble, hors partisanerie politique, là, parce que les démocrates, ils ne sont que 5% à appuyer ce genre de spectacle-là, ils ne sont pas plus de 16% des Américains à dire ça, on devait faire ça à la Maison-Blanche de cette manière-là. Donc, la plupart des gens, rappelons qu'on est dans l'année, hein, c'est le 250 ans de l'indépendance américaine, les gens ne trouvaient pas que c'était bon, de bon goût, que c'était l'endroit pour organiser ce combat-là.
Bien, Luc, quand on écoute ceci du combattant Josh Okick du UFC, on va comprendre pourquoi il y avait juste 16 % des gens qui étaient pour. Michelle Obama is a man. Ça fait pas très démocratie ouverte.
Voilà. C'est ce qu'on reproche à ça. C'est-à-dire que ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui, un, disent Donald Trump est un peu déconnecté de ce que vivent les Américains au quotidien, et deux, qu'il organise ce spectacle-là pour lui et pour ses partisans les plus loyaux, les plus fidèles. Un président américain, qu'il soit républicain et démocrate, on peut remonter dans le temps loin où il y a quelques années à peine. Et habituellement, surtout quand on s'apprête à commémorer ou qu'on commémore un 250e anniversaire, on veut être rassembleur. On veut dégager l'image d'un président qui est le président de tout le monde. Ceux qui ont voté pour lui et les autres et les opposants. Ceux qui sont déçus comme ceux qui apprécient. Et Donald Trump ne s'embarrasse pas de ce genre de délicatesse ou de positionnement. Et c'est l'impression que ça a laissé à bien les gens.
Donc, on fait une coche dans la colonne défaite pour son UFC à la Maison-Blanche. Est-ce que vendredi, Luc, à la signature de l'accord avec l'Iran à Genève, en Suisse, on va faire une coche encore dans la colonne défaite? Parce que là, ce qu'on en comprend... Ouais. Il va pouvoir avoir de l'uranium enrichi en Iran. On dit à Israël, arrête de bombarder le Liban. Puis le détroit d'Ormuz va réouvrir. Mais le détroit d'Ormuz, il était ouvert avant le 28 février.
Écoute, c'est intéressant ce à quoi on assiste depuis hier. D'abord, en début de journée, je me lève hier matin, donc je surveille quand même mes alertes, même un dimanche, pour nous dire cessez le feu, entente, protocole d'entente pour un cessez-le-feu. Il a fallu attendre pendant une bonne partie de la journée pour que l'Iran dise oui, il y a bel et bien un protocole, parce qu'on avait la version du Pakistan, qui est en quelque sorte un médiateur dans ce dossier-là, puis on avait la version américaine. Maintenant, avant de s'emballer, puis avant d'aller plus loin, un protocole d'entente, c'est quoi? C'est voici les balises sur lesquelles on s'entend avant de commencer à se parler. Et pour ces balises-là, pour ceux qui suivent minimalement l'actualité internationale, on sent très bien que l'Iran et les États-Unis ne disent pas tout à fait la même chose sur ce protocole. J'écoutais il y a une heure à peine, une heure et quart, le président Trump s'entretenir avec le président français parce qu'il est parti pour le G7 oui. Hier, Donald Trump. Il est arrivé donc très tôt ce matin, à notre heure, et le président donc entretenait un flou autour de ce fameux protocole. Mais là, je me disais, entre ce que dit le président devant Emmanuel Macron puis devant les alliés et partenaires du G7, ce que nous rapporte l'Iran, visiblement, on n'a pas un glossaire à la fin ou on n'a pas un index dans lequel on nous dit « voici où sont les définitions des termes que vous utilisez ». On ne parle pas tout à fait de la même chose. Le président a dit, par exemple, « écoutez, il est ouvert, le détroit ». Non, pas tout à fait. On a dit qu'on allait l'ouvrir, mais il y a un détail. Il faut déminer avant de laisser passer les navires. Et on ne sentait pas un grand engouement des pétrolières ou encore des assureurs, ceux qui assurent les cargaisons, de se lancer comme ça dans le détroit. Sinon, pour le président, à court terme, c'est bon. Donc, quand tu parlais victoire ou défaite, là, lui, hier, pour son 80e anniversaire, pour son combat du UFC, il dit... En plus, j'ai un cessez-le-feu, puis regardez les marchés, le baril de pétrole est à la baisse. Et c'est vrai. Est-ce que c'est une victoire? Je répète, ce qu'on a, c'est les balises d'une entente qui déterminent qu'on peut se parler, puis les questions essentielles s'en viennent. Si les électeurs sont rassurés et les marchés sont rassurés par ça, c'est un, on a une mémoire courte, et deux, ben, on s'inquiète peu de ce qu'il y a dans l'entente. Parce que moi, ce que je lis depuis hier, incluant ce matin, les informations nous parviennent au compte-gouttes, c'est qu'on a un protocole qui place la barre vraiment au plus bas si on se met dans la peau du président américain. C'est-à-dire qu'on ne parviendrait même pas à atteindre actuellement l'accord que le président Trump a déchiré, cet accord négocié en 2015 pendant l'administration Obama, mais avec les États-Unis et 5 autres partenaires. Et là, on pense... dans les 2 prochains mois, si ça tient le coup, qu'on va parvenir à régler des questions qui ont pris beaucoup de temps à régler pour l'administration Obama, et l'Iran ne négocie jamais en courant. On a l'habitude de se traîner les pieds pendant les négociations, et il y a de nombreux pièges à venir pendant les 2 prochains mois. Donc, au moment où on se parle, je te résumerai ça, puis je vole la phrase à un éditorial français de ce matin. Tout ça pour ça. Ouais. C'est bien mentionné. Il était ouvert, le détroit, avant. Puis on dit, est-ce qu'on a fait 108 jours de conflit pour réouvrir le détroit sans qu'on ait d'engagement là, précis, détaillé? On a 14 points entre l'Iran et les États-Unis. Le document signé par Obama avec l'Iran, bien sûr, et les partenaires, faisait plus d'une centaine de pages. Donc, on a encore des écueils sur la route. Donc, on prend les bonnes nouvelles quand elles nous parviennent. En même temps, gardons-nous une petite réserve ou un jugement. Je serais loin de déclarer victoire si j'étais le président Trump.
Donc, 2 affaires dans ce que je retiens, oui. Luc, actuellement. Si vous avez des bidons d'essence à la maison puis que vous avez là, des véhicules motorisés que vous utilisez pendant la période de vacances, là, des bateaux, des sidoux, c'est peut-être le temps d'en profiter pour aller les remplir. Là, parce que clairement, il va y avoir fluctuation encore du baril de brut, entre autres. C'est pas gagné d'avance, ça.
Non, le prix de l'essence, là, on l'a vu, le prix du brut baisse. Ça prend toujours un certain temps avant que ça se manifeste de notre côté à la pompe. Mais de ce que je lisais de la plupart des analystes, c'est attendez encore un peu avant d'avoir des baisses significatives ou de revenir à la situation qui prévalait avant que les États-Unis ne lancent les hostilités. Donc, peut-être une petite marge pour respirer, c'est vrai, hein? C'est les vacances pour plein de gens qui vont prendre la route ou qui vont se divertir et ça implique entre autres du pétrole. Donc, mais ne vous attendez pas, en tout cas pas de ce que je lis, à des baisses drastiques, dramatiques. On n'est pas encore de retour à ce qu'il y avait avant le conflit.
Puis est-ce qu'il y a quelque chose justement de stratégique par rapport aux vacances qui s'installent autant chez nous que dans le reste du Canada qu'aux États-Unis aussi avec cet accord-là entre gros guillemets actuellement, justement, vu ce que tu expliquais avec le fait que du côté de l'Iran, quand vient la période de négociation, il y aura tiraillement de part et d'autre aussi avec les États-Unis. Je pose la question parce que tu sais, des fois, pendant les vacances, les nouvelles ne prennent jamais de pause, là, de vacances ou de relâche, mais on s'entend que pendant la période estivale, c'est pas que les médias prennent une pause, c'est plus que les gens prennent une pause de ce qu'ils consomment parce qu'on est en période estivale. On a moins envie un peu de consommer des nouvelles. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une stratégie à ce niveau-là aussi de signer l'accord-là, sachant que l'été s'en vient puis que si jamais le pétrole augmente, justement, ça va peut-être faire moins mal à la cote de popularité de Donald Trump, étant donné que, bah, de toute façon, on est en vacances, puis on a besoin de se déplacer. Fait que c'est comme ça pour cette année, ou c'est moi qui fabule là, de penser comme
ça? Je pense que le hasard ou la coïncidence, puis je mets ça avec des guillemets, c'est qu'il y a une grande insatisfaction aux États-Unis et il faut rapidement corriger le tir du côté des Républicains et du président avant les élections de mi-mandat. Les Américains sont fatigués. Ils n'ont jamais été pour ce conflit-là. Ils n'aiment pas la façon dont on le gère, ils n'aiment pas les retombées et ils ont fait le lien pour plusieurs entre le conflit et l'inflation et le prix de l'essence. Et il y a des républicains la semaine dernière qui avaient déjà commencé à baisser les bras en disant « c'est pas vrai qu'on a le temps de se relever de ça avant les élections de mi-mandat ». Et c'est pour ça que je disais « c'est certain que Donald Trump va essayer de présenter ça comme une victoire ». Parce que la Chambre des représentants, tous les sièges sont en jeu, le tiers du Sénat va être renouvelé. Mais est-ce qu'il a encore le temps et est-ce qu'il peut éviter tous les pièges pour corriger le narratif? Moi, je vais être très impressionné s'il y parvient, mais déçu parce que ça veut dire que les gens lisent pas les nouvelles au complet et qu'ils se contentent de quelques grandes déclarations choc. Et je répète, le prix du pétrole, c'est pas encore réglé et ce n'est qu'un volet. Hein? Rappelez-vous tout ce qui passe par le détroit d'Ormuz, qui est une voie de communication très, très importante pour bien d'autres choses que le pétrole. Donc, réjouissons-nous s'il y a une pause. Si je suis un Américain, je ne donne pas un chèque en blanc au président là-dessus. Je ne me lève pas tout de suite pour applaudir. Je veux en savoir plus.
C'est clair. Hey Luc, en terminant, Donald Trump est au G7 en France. Hey. Il a fait son arrivée ce matin. Tu t'attends à quoi de ce G7-là? J'ai l'impression là, que ça a tellement brassé avec l'Iran que je pense que même si c'est pratiquement impossible, il n'y aura pas de grande vague avec Donald Trump là, présentement.
Moi, je pense que c'est une réunion de famille quand il y a eu la première réunion de famille après qu'il y ait eu une chicane dans une famille.
Oui, hein?
Les membres de la famille aient traversé une période difficile ou qu'ils aient envoyé promener le reste de la famille. On a un peu ce malaise. C'est une drôle de réunion de famille à laquelle on assiste parce que, tout d'abord, Donald Trump arrive ce matin avec sa version donc, du protocole d'entente. Mm-hmm. C'est la chose qui a retenu l'attention quand il a pris la parole aux côtés d'Emmanuel Macron. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses sur la table. On est encore en colère pour les tarifs douaniers. On est encore en colère pour l'OTAN. On est encore en colère pour l'Ukraine.
Ben donc, oui, d'ailleurs, la Russie a fait une attaque sans précédent sur Kiev hier, là.
Voilà, donc il y a énormément de points. Si on sort de là en ne s'étant pas querellé, c'est déjà, entre guillemets, un G7 qui sera positif. Parce que ce qu'on évalue dans ce G7-là, c'est on a un partenaire. Ils se trouvent un peu, les Européens, dans la situation du Canada. On a un partenaire historique avec qui, malgré des écueils, on a toujours bien collaboré. Et parfois, il est hostile et on ne peut pas se fier sur lui, ou de moins en moins. Donc, c'est le genre de G7 dans lequel on se trouve. Mais c'est une position qu'on connaît bien au Canada, malheureusement, parce qu'on vit ça presque au quotidien ces jours-ci.
Luc Laliberté, toujours un bonheur de te parler. On va suivre attentivement le G7. On va suivre attentivement cet accord de vendredi. Et on se reparle en courant de semaine, que ce soit dans Marceau le matin ou dans On en jase.
Salutations aux auditeurs. Salutations à vous deux. Bye.
Salut Luc. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en classe. Si vous ne suivez pas sur les médias sociaux, suivez-le. Ça vaut la peine. Hey, la guerre entre Ukraine et Russie... aujourd'hui, dépasse le nombre de jours de la Première Guerre mondiale. C'est épouvantable.
Aujourd'hui même.
C'est capoté. Dépasse le nombre de jours de la Première Guerre mondiale. Quand est-ce qu'on va l'arrêter, ce Poutine?
Puis, tu sais, on en parle quand il y a des tristes anniversaires comme aujourd'hui, mais on en parle vraiment moins.
On n'en parle plus.
Quand ça devient...
C'est rentré dans
ça
le...
fait partie de la routine.
Oui,
hein?
C'est rentré dans le naturel. Ah, l'Ukraine a envoyé des drones pas loin de Moscou. Ah, les Russes ont attaqué telle partie. Alors que c'est de la guerre qu'on parle.
Ça
n'a
aucun sens.
Mais c'est devenu anodin parce que le temps a fait son,
ouais,
son œuvre.
Ouais.
Complètement fou.
Je trouve que c'est d'une tristesse incroyable, ça. C'est ça, que ça perdure dans le temps aussi longtemps que ça.
Oui.
Puis imaginez le quotidien de ces gens-là. J'ai eu la chance de m'entretenir avec une Ukrainienne dans... c'était au printemps, ça fait pas si longtemps, qui m'expliquait que c'est une décision familiale, finalement, puis monétaire, qu'elle a eu la chance de s'en venir ici, mais que sa famille est encore là-bas, sur place. Imagine le stress que tu vis aussi quand t'es loin de tes proches, parce que ça, c'est le quotidien de plusieurs familles là, qui ont dû se séparer, qui ont dû faire des choix.
Vraiment.
Une partie de la famille est partie, a réussi à quitter le pays, mais il y a une autre partie de la famille qui est encore là-bas, sur place. Il y a des gens avec qui j'avais parlé aussi qui m'avaient dit, tu sais, moi, c'est mes grands-parents qui sont là-bas et eux ne veulent pas quitter. C'est chez eux, c'est leur terre depuis toujours. Fait qu'il n'était pas question
qu'ils
s'en aillent non plus. Fait que, tu sais, c'est ça, nous autres, des fois, on... Ça remet les pendules à l'heure.
Ouais, puis tu sais, il y a des gens qui vont dire, puis j'entends ce discours-là, puis tu sais, je suis complètement en désaccord avec ce discours-là, de dire, ouais, mais là, en Ukraine, on envoie de l'argent, puis il y a de la corruption, puis tout ça. Faut toujours protéger nos démocraties, même si elle est imparfaite en Ukraine, versus des régimes totalitaires et autoritaires comme la Russie.
Non, absolument.
Toujours.
Ça, c'est sûr.
Il va toujours falloir protéger nos démocraties à 100%. Puis il faut rester, malgré le temps qui s'écoule, faut rester derrière les Ukrainiens. Ce peuple-là mérite d'avoir sa démocratie, mérite d'avoir son territoire, mérite d'avoir sa nation. Il va toujours falloir protéger nos démocraties dans le monde. C'est à ça que l'OTAN sert. C'est à ça que les grandes démocraties servent. Et il faut continuer dans ce sens.
C'est un principe de base aussi, Jeff.
Oui.
Là, inversons les rôles une fraction de seconde.
Ben
si
oui.
C'était nous, si ça nous arrivait,
ben,
est-ce
ça.
Qu'on aurait envie que les pays qui nous aident depuis le début, finalement, nous disent « Ben là, ça fait longtemps, puis
ben,
l'argent, on ne sait pas trop comment vous l'utilisez, fait qu'on tire ça à plug. »
Exactement.
Mettez-vous de l'autre bord deux secondes.
Ben, c'est ça.
Pensez-y un peu.
T'sais, je le fais, mais... je vais le faire à l'extrême, là, mais mettons que Donald Trump, il dit « Parfait, 51e état, c'est fini. Là. Moi, j'embarque, là, puis je pogne ça, là, de force. »
Je rentre, oui.
Puis là, on ne voudrait pas que les alliés européens nous aident. Ouais. On ne voudrait pas avoir des gens qui négocient pour nous.
On aurait besoin de leur aide aussi.
Ben oui.
C'est ça qui arrive.
Ben oui, voyons.
C'est ça le pire, c'est que, tu sais, ben oui, on a notre armée puis tout ça, mais on... dans tous les cas, éventuellement, on aurait besoin d'avoir un coup de main. Puis comme tu dis, tu sais, ne serait-ce que pour la démocratie, c'est important de le faire aussi.
Ben
on ne peut pas vivre dans ce... On ne peut pas accepter de vivre dans ce genre de monde-là.
Non. Seulement 13% des pays dans le monde vivent sous un régime complètement démocratique. Tu sais pas qu'il n'y a pas d'élection truquée, là,
ouais,
comme il y avait au Venezuela dans le temps de Maduro.
Oui.
C'est fou quand
c'est pas beaucoup, hein?
C'est tellement minime.
C'est vraiment pas beaucoup.
Faut protéger. Faut protéger nos démocraties de ce courant-là. On fait une dernière pause à l'émission. On en jase par la suite. Gros bloc d'actualité. On jase de sport avec Alex Laramé parce que c'est un énorme week-end de sport. Puis Nate, t'as fait une demande d'entrevue, toi, que tu t'es fait refuser parce qu'on veut en savoir plus sur les surveillants.
Les chiens de garde, effectivement, le fameux consortium là, pour le projet de tramway. Puis, c'est ça. Je trouvais intéressant de proposer, évidemment, de recevoir en entrevue quelqu'un du côté du projet de tramway
mais
de CDPQ Infra.
Les chiens de garde veulent pas parler.
Mais là, on m'a dit que ça a l'air que c'est le même que ça marche tout le temps d'habitude. Tu sais, moi, j'étais encore un petit nouveau là, en radio parler. Là, fait
mais les chiens de garde. Pour surveiller des gestionnaires grassement payés qu'il faut qu'ils gèrent un budget de 7,6 milliards. Pensez à ça collectivement.
Question de la Ville de Québec.
Le bon temps est enfin là. Et c'est le moment parfait pour lancer vos projets avec les journées Steel chez Faneuf Équipement Agricole. Jusqu'au 20 juin, à l'achat de produits Steel sélectionnés, obtenez une batterie gratuite d'une valeur pouvant atteindre 499,99 $. Et ce n'est pas tout. Passez nous voir à la succursale de la Durantais et participez à notre concours pour courir la chance de gagner une carte cadeau Faneuf de 250 $. On vous attend au 23 rue Olivier Morel. Certaines conditions s'appliquent, quantité limitée.
Tous les vendredis jusqu'au mois de juillet, profitez de la promotion plein gaz au Grand Royal Waninac. Cumulez vos points aux machines à sous et courez la chance de gagner jusqu'à 200 $ en carte d'essence prépayée. De plus, vos points sont doublés de 8h à midi. Le Grand Royal Waninac, à 15 minutes de Trois-Rivières.
C'est de retour et c'est gigantesque. C'est les soldes monstres aux instruments de musique Long & McQuaid. Tout le mois de juin, Long & McQuaid rugit avec des spéciaux en magasin et en ligne, ainsi qu'un financement sans intérêt pendant 6 mois. À ne pas manquer ce mois-ci. Location à demi-prix, journée d'appréciation de la clientèle et une tonne de surprises monstrueuses. Les soldes monstres tout le mois de juin, seulement chez Long & McQuaid. Visitez long-mcquaid.com pour en savoir plus. Long & McQuaid, là où la musique commence.
Pendant vos escapades, vous avez passé devant les files d'attente aux stations-service sans vous arrêter, grâce à une autonomie combinée allant jusqu'à 962 km. Mais aujourd'hui, vous reprenez la routine en comptant sur une autonomie électrique de 72 km. La Prius hybride branchable s'adapte à votre rythme. C'est l'heure de conduire la vôtre. C'est l'heure Toyota. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 8 000 en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Ce segment d'émission présenté par Winman, entretien de pelouse. Chez Winman, chaque programme est personnalisé pour votre terrain. Pour une pelouse dense, verte et en santé tout l'été.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la demeure.
Merci d'être là, merci d'être à l'écoute de l'émission En jase, merci d'interagir via le 418-971-1021. Je vous rappelle également, vous avez un haut-parleur intelligent à la maison. Vous dites écoutez BLVD 1021 et on apparaît dans vos oreilles. C'est aussi simple que ça. Écoutez BLVD 1021. Je vous ai dit en entrée d'émission que j'étais un gros fan de la Coupe du monde de soccer. Ben Nate, imagine-toi donc, OK? C'est l'Espagne contre le Cap... Là, attends une minute, on entend de quoi? OK, j'ai arrêté ça. C'est l'Espagne contre le Cap Vert, OK?
Mm-hmm.
L'Espagne, déjà champion mondial. Le Cap Vert, première participation à vie à la Coupe du monde de soccer. OK, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le Cap Vert? Eh bien, c'est un pays d'Afrique. C'est une dizaine d'îles ensemble, des îles volcaniques, dans l'État insulaire d'Afrique de l'Ouest. Ça a une population totale, écoute bien ça, de 524 877 habitants. Je rappelle, on est près de 9 millions au Québec.
Hey, pas là, hein?
Eux autres sont 524 000.
Hey.
Là, ils participent pour la première fois à la Coupe du monde. Ils jouent contre des anciens champions mondiaux, qui est l'Espagne. On est à la 80e minute. À 10 minutes, de la fin du match. Il y a quelques minutes supplémentaires à la fin du match.
Ouais.
C'est 0-0.
Encore.
Ah, le Cap Vert est en train de toffer l'Espagne.
T'imagines-tu?
J'adore les événements sportifs.
Mais ça, c'est
de
des
cette
belles
envergure.
Histoires, ouais. Ça,
ah,
c'est
oui,
vraiment,
vraiment
des belles histoires, ça, ce genre d'histoire-là.
Ouais. Belgique et Égypte à 15h à 18h. C'est l'Arabie Saoudite contre l'Uruguay. Je vais prendre pour l'Uruguay. On l'a parlé
ben
en
oui.
début de show. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez écouter sur BLVD.fr.
Nouvelle terre d'accueil pour Jeff.
Et l'Iran contre la Nouvelle-Zélande. C'est l'horaire d'aujourd'hui. On va parler justement de la Coupe du monde avec Alex Laramée dans quelques instants. Mais Nate, avant, fais-nous un petit tour de l'actualité, s'il vous plaît.
Certainement, avec grand plaisir. Ottawa qui affirme que la crise des opioïdes est loin d'être terminée malgré certains progrès observés en 2025. On peut lire ça du côté de Radio-Canada. Le nombre de décès liés aux opioïdes qui a diminué de 23 % Les hospitalisations qui ont reculé aussi de 12 % au pays. Les autorités attribuent cette amélioration notamment à l'utilisation accrue de naloxone. Mm-hmm. Malgré tout, plus de 5600 personnes sont décédées l'an dernier d'une intoxication. Apparemment, liés aux opioïdes, soit environ 15 décès par jour au Canada.
Nate, savais-tu quoi?
Non.
On a de quoi être fiers du Cap-Vert parce qu'on m'apprend par texto 418-971-101 que le Cap-Vert, c'est aussi une municipalité aux îles de la Madeleine.
OK, fait qu'on
fait
peut...
C'est comme nos cousins.
Fait que les gens du Cap-Vert peuvent se dire qu'ils ont une équipe là-bas à la Coupe du monde.
C'est ça,
en
c'est
ce
comme
moment.
Nos cousins. Charles-Étienne, un grand connaisseur de soccer qui nous écrit au Supertexto, c'est comme si c'était 0-0 en fin de troisième période au hockey entre le Canada et le Gabon.
OK.
Fait que tu vois comment c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est pour ça que j'adore ces compétitions sportives-là, il y a toujours de ces histoires-là c'est à Abracadabrande.
Il y a toujours une histoire à raconter, effectivement. Sinon, j'irai avec le Québec qui veut encadrer l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les milieux de travail. C'est sorti un petit peu plus tôt, ça. Ce matin, c'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui dévoile un guide d'implantation qui insiste sur la transparence et le maintien du jugement humain dans les décisions. Le document met aussi en lumière les risques liés à la surveillance des employés par l'intelligence artificielle. Syndicats et experts qui accueillent favorablement l'initiative, estimant qu'elle permettra aux entreprises d'adopter ces nouvelles technologies tout en protégeant les travailleurs. Rien de limitant dans ce document-là, c'est ce qu'on peut lire, mais qui va servir de base davantage pour justement les différentes entreprises. Et on en parlera un petit peu plus tard de ça, mais le projet de tramway de Québec qui franchit une nouvelle étape, c'est la CDPQ Infra qui a confié au consortium CertiTram le rôle de certificateur indépendant du projet Tramcité. Son mandat sera de surveiller l'avancement des travaux et de vérifier le respect des coûts, des échéanciers et de la conception dirigée par la firme française Certifère. Le consortium accompagnera le projet jusqu'à 2 ans. Après sa mise en service prévue en 2033, Certifère agit déjà comme évaluateur indépendant de la sécurité du futur tramway. C'est coutume dans ce genre de gros projet-là, évidemment, d'avoir des chiens de garde, comme on peut lire là, dans différents médias ce matin. Mais c'est ça, on en reparlera un petit peu plus tard parce que j'ai communiqué avec le projet de tramway, donc bureau du projet de tramway, CDPQ Infra, pour avoir quelqu'un en entrevue pour nous expliquer un petit peu c'est quoi le mandat exactement, parce que c'est sorti ce matin en nous disant « ça rentre dans le budget ». De 7,6 milliards. Donc, c'était déjà prévu de cette façon-là. Puis, on n'accorde pas d'entrevue. Puis là, c'est là que j'ai pas eu de réponse parce que j'ai demandé pourquoi on n'accorde pas d'entrevue. T'sais, pourquoi juste répondre à nos questions de qu'est-ce que ce groupe-là va faire, ce consortium-là va faire exactement.
Comment on va s'assurer de rentrer dans les coûts parce que c'est une grosse préoccupation chez les gens et avec raison.
Parce que je me souviens pas, à moins que tu me rafraîchisses la mémoire, je sais qu'on avait donné le mandat lors de la construction du centre Vidéotron, maintenant on l'appelle comme ça, mais de l'amphithéâtre ici à Québec, mais c'était à l'interne.
Oui.
T'sais, ça restait dans la ville de Québec quand même.
C'était Régis qui gérait le budget en bout de ligne.
On gérait le budget. Je sais qu'il y avait un monsieur Rochette à l'époque aussi qui était le chef, la tête dirigeante de tout ça, qui s'assurait qu'on rentrait dans le budget de 450 millions à l'époque. Imaginez-vous, c'est il y a 10 ans à peine. Ça. 450 millions, on ne fait plus rien avec ça aujourd'hui. C'est quand même fou quand on y pense 2 secondes. Mais c'était quand même un gros projet aussi.
Donc,
est-ce qu'on avait des chiens de garde? Est-ce qu'on avait un consortium comme ça, externe aussi, pour l'amphithéâtre? Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas, du moins que c'était sorti dans les médias.
Sébastien qui mentionne par texto combien nous coûte de millions notre chien de garde. Ben, c'est justement ça la question qu'on voulait savoir parce que c'est des millions qui vont surveiller des gestionnaires qui vont gagner des centaines de millions de dollars en bout de ligne qu'on les met tous ensemble. Fait que il me semble que ça fait pas mal de millions pour arriver à 7,6 millions.
Mais juste qu'on puisse savoir plus de réponses à nos questions qu'une ligne de communication.
Tellement.
C'est ça. Mais bref, on en reparlera un petit peu plus tard, plus en détail.
Cité du côté du dossier du tramway hier à Vegas. Stepping up is down. The perfect storm in the 20th anniversary of their first title. Once again, the Carolina Hurricanes are Stanley Cup champions. Vingt ans après leur première conquête de la Coupe Stanley, il était capitaine des Hurricanes à ce moment-là. Rod Brind'Amour qui mène son équipe comme entraîneur à la Coupe Stanley. Depuis 8 ans, les Hurricanes de la Caroline, c'est l'équipe qui a le plus de victoires en saison régulière et série. Ça a repris ce 8 ans-là pour gagner la Coupe Stanley. Alex Laramain, faut regarder ça puis se dire, va falloir être patient à Montréal parce que c'est pas toujours gagné d'avance une Coupe Stanley.
Ben non, tu sais, les Hurricanes, ils ont vraiment passé par le processus de toutes les équipes pratiquement qui gagnent la Coupe Stanley. Tu sais, les Panthers de la Floride, combien d'années on perdait en première ronde contre Tampa Bay? C'était les années du Lightning, puis ensuite ça a été leur tour. Même chose du côté de l'Avalanche du Colorado, beaucoup d'années de pain noir avec Nathan MacKinnon avant de finalement mettre la main sur la coupe. Puis il faut se le dire, là, les Hurricanes, je pense que c'était leur année. Là. Ils ont perdu 3 matchs au total dans tout le parcours éliminatoire. Ah. C'est le parcours avec le moins de défaites là, depuis, je pense, c'était les Kings. Je me souviens plus, une des 2 années qui ont gagné la coupe là, dans les années 2010. Il y avait eu 4 défaites de leur côté. Là, c'est 3 pour les Hurricanes. Ils ont été dominants, il faut le dire. Ils ont passé à travers les 2 clubs en première ronde. Ils ont passé dessus aussi du Canadien. Canadien là, en troisième round puis, contre Vegas. Finalement, ils ont échappé deux matchs, mais je pense que tout le monde, après le cinquième match, s'attendait à ce que ça se finisse dans le sixième. Là. C'est une équipe, très belle équipe qui mérite amplement de gagner. Là.
On a trippé sur les enfants de Matthew Stafford. Ces quatre jeunes filles qui l'ont questionné après qu'il ait gagné le titre de joueur le plus utile de la NFL. Ben, hier, c'est une autre jeune fille qui a volé la vedette. La jeune fille de Jordan Stahl, on l'écoute.
You guys have anything to say?
Yeah, I have
a question.
Elle a une question, elle, pour son père.
I thought you called us crew. And we're going to go way back to the first game in the first season. Why did you punch that guy? Questions that need to be answered, guys.
Yeah. I'll answer that later, yeah.
Je vais répondre plus tard pourquoi au premier match des séries, à la première seconde, j'ai jeté les gants puis j'ai décidé de sacrer une volée à Brady Kachuk.
C'était de toute c'est beauté. Bien dit.
Ah oui, non, c'était de toute beauté. Ah, c'est simple, Jordan Stahl l'a fait parce que Brady Kachuk, ben, c'est un joueur, on le sait, très intense, très intimidateur sur une patinoire. Puis il a montré à son équipe, cette année, c'est par là qu'on s'en va. Ça a fonctionné. Il remporte le Conn Smythe malgré les statistiques offensives, mis à part la finale qui n'était pas extraordinaire. Peut-être c'est un vote pour l'ensemble de l'œuvre. J'ai l'impression que vous en pensez, les gars.
Ah ouais, totalement. Tu sais, je regardais les votes. Il y a seulement quatre journalistes là, qui n'ont pas voté pour Jordan Stahl comme première étoile. Ça semblait assez unanime. Puis tu sais, oui, c'est pas nécessairement le meilleur pointeur. Il y aurait eu Frederick Anderson qui aurait eu une chance de mettre la main sur le trophée s'il n'avait pas été enlevé des matchs durant la série finale. Mais tu sais, est-ce qu'il y a un autre joueur qui s'est tant illustré du côté des Hurricanes? C'est vraiment le concept d'équipe, hein? Du côté des Hurricanes avec justement Rod Brind'Amour comme entraîneur-chef. Puis c'est ça qu'on a vu à la fin, c'est qu'il n'y avait pas un joueur comme Vegas. Que si Vegas avait remporté la Coupe, c'est sûr que c'était Marner qui allait remporter le Conn Smythe. Donc, moi, je pense que le donner à Jordan Stahl, un peu pour, comme tu l'as dit, l'ensemble de l'œuvre. Vétéran, c'est le joueur le plus vieux à mettre la main sur le Conn Smythe dans l'histoire de ce trophée-là. Donc, non, une autre belle histoire là, pour les Hurricanes.
Mais, je suis d'accord avec vous deux. Puis, je suis d'accord avec ce que tu dis, Alex, aussi. Je trouve intéressant l'idée qu'on y aille avec l'ensemble de l'œuvre, qu'on se pose des questions aussi à comment cet homme-là a interagi dans le vestiaire avec les coéquipiers, comment ça a été le bras droit de Brind'Amour pendant
vraiment
tout ce parcours-là, le concept d'équipe,
le parcours
plus
de
que
8
d'y
ans,
aller, ben écoute, puis plus que d'y aller avec des statistiques sur papier, parce que c'est sûr que tu sais dans le classement des points, j'entendais Max un peu plus tôt, puis tu sais je pense qu'il fait même pas le top 20 des pointeurs pendant les séries éliminatoires. Mais est-ce qu'on est rendu là, peut-être, dans le sport, de se dire justement que un gars comme Suzuki qu'on a ici à Québec, à Montréal, performe très, très bien, mais ce dont on entend le plus parler, c'est son leadership dans le vestiaire. C'est le fait qu'il est capable de tenir ce noyau-là ensemble et va travailler en collaboration avec Saint-Louis. Fait que moi, je trouve que c'était bien mérité hier. L'histoire, encore là, tu parlais d'histoire dans le sport, l'histoire derrière tout ça, Brind'Amour, qui a remporté la Coupe il y a 20 ans avec le même jersey sur le dos, avec son capitaine qui a tout donné à côté de lui aussi, qui a cru.
Les deux se braillent dans les bras.
Je trouve que c'était beau. Mais c'est vraiment un beau moment de sport.
C'était écœurant. Parlant de beau moment de sport, c'est ce but du Canada en soccer vendredi pour donner un match nul de 1-1 contre la Bosnie. Le Qatar a surpris en ayant un match nul également contre la Suisse, 1-1. Bref, la Coupe du monde a frappé le Canada, les États-Unis et le Mexique. Prochain match jeudi contre le Qatar pour le Canada. Alex, c'est vraiment excitant à regarder.
Ouais, ben tu sais, le match contre le Qatar va devenir drôlement important parce qu'on le sait, la Suisse, oui, a fait match nul contre le Qatar, mais c'est les favoris là, pour remporter le groupe, fait que ça risque d'être un match plus difficile. Mais moi, j'y restais avec un petit goût amer là, dans le match contre la Bosnie. Là, j'ai regardé ça puis je trouvais qu'on avait vraiment l'ascendant sur ce match-là. On a raté plusieurs chances. Je me rappelle de Jonathan David en première mi-temps, une chance directement dans zone de réparation, puis un tir faible, facilement arrêté par le gardien de but. Je trouvais qu'on aurait dû remporter ce match-là. Je pense qu'on est une meilleure nation que la Bosnie, mais au moins d'aller tirer notre premier point dans l'histoire de la Coupe du monde, c'est déjà pas pire. Mais avec justement le match nul du Qatar contre la Suisse, ça ouvre peut-être la porte pour le Canada. Mais il faut dire aussi qu'il y a des meilleurs troisièmes qui vont passer dans la ronde éliminatoire. Donc, à moins d'une catastrophe, là, on devrait avoir encore quelques matchs à se mettre sous la dent pour l'équipe canadienne.
Vraiment. Donc, prochain rendez-vous jeudi 18h contre le 14. Alex Aramé, toujours un bonheur de te parler. On se reparle cette semaine. Justement, la Coupe du monde bat son plein.
Ah oui, on se reparle peut-être avec un match nul là, de l'Espagne. C'est encore 0-0 contre
ben
le Cap-Vert.
Ben oui, encore
donc,
0-0. Espagne-Cap-Vert à la 90e minute. Ça serait une surprise exceptionnelle. Merci, Alex.
Salut, là.
Salut. Salut, Alex. Alex Laramé, à qui on parle régulièrement, chroniqueur sportif pour nous et également journaliste au 99.5 Montréal. Mentionner la victoire des Knicks aussi cette fin de semaine, 94-90. Bon, il y a eu du saccage dans les rues de New York après cette party, pas vrai. Mais quelle performance des Knicks de New York quand on parlait d'une performance exceptionnelle des Hurricanes de la Caroline à 3 défaites dans les séries. Ben, c'est ça les Knicks aussi. C'est 16 victoires et 3 revers. Jalen Brunson qui a encore été fumant en finale avec 45 points. Fait que, Nate, si on complète notre histoire du tramway avant de nous laisser à Gravel dans le retour, on peut pas parler aux chiens de garde. On sait pas combien ça coûte. Puis eux autres, ils vont être responsables de surveiller le 7,6 milliards.
Là, c'est ça. Écoute, c'est le seul petit bout d'information que j'ai pas. Puis je veux pas, jeter la pierre à qui que ce soit. Là, c'est pas ça l'objectif, mais c'est juste que j'ai fait des demandes d'entrevue ce matin. On m'a dit on n'accorde pas d'entrevue. Voici la ligne de communication. Je peux vous envoyer ça par courriel, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai reçu, c'est le courriel suivant. Le consortium Certitram est composé de certifères Canada, appuyé par EXP et Transamo Canada, avec la collaboration de Jodoin Lamar Pratt, architecte, et de Socané. Il agira comme certificateur indépendant du projet Tramcité. Tout au long du projet, son rôle sera de vérifier que les travaux et les systèmes sont conformes au processus établi et respectent les exigences techniques, contractuelles, ainsi que les échéanciers et les budgets. Certitram a été sélectionné au mois de mai au terme d'un processus d'approvisionnement rigoureux au cours duquel 5 propositions ont été présentées. L'appel d'expression d'intérêt, étape préalable, avait permis de qualifier 21 entreprises. Là, ce qu'on peut lire sous la plume de... Attends un petit peu, j'avais l'article ici. Sous la plume de M. Moala, du côté du Journal de Québec, c'est que le coût du contrat est inclus dans le budget global de 7,6 milliards de dollars du tramway, mais tout comme c'était le cas lors de la sélection des 2 consortiums privilégiés pour le contrat civil et contrat système, les montants précis ne sont pas rendus publics à ce stade-ci du processus. Au-delà du montant, c'était plus d'avoir des explications plus en profondeur sur c'est quoi exactement le mandat de ce consortium-là. Il y a plusieurs entreprises, puis je comprends que ça prend un parti ou des partis externes qui vont s'assurer que le projet va être bien fait, va être bien mené, qu'on va respecter les échéances, que tout va être conforme. Mais là, pour l'instant, la nouvelle est sortie, mais on n'a pas plus de détails à vous donner parce qu'on a refusé les demandes d'entrevue. Puis on m'a juste répondu, on n'accorde pas d'entrevue pour ça.
Ouais,
quand
non,
j'ai demandé pourquoi, je n'ai pas eu de réponse.
Ça fait pas de sens, l'opacité, dans le dossier du tramway. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Nous, on se parle demain, hein?
À demain!
Salut, merci pour tout!
Ciao!